Et bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir répondu à cette invitation de Créativité Territoire. Donc, vous savez, à chaque fois, on prend un thème. On a pris les centres-villes, on a pris les médiathèques. Et aujourd'hui, c'est les zones d'activité qu'on essaie de voir sous plusieurs angles. Et vous verrez, il y a même des angles photographiques et voire des angles urbanistiques, critiques aussi parfois de ces zones telles qu'elles sont conçues aujourd'hui. Donc, c'est fait pour ça. Et donc, on va commencer peut-être par une sorte d'état des lieux, en quelque sorte, par une structure qui a peut-être une vision un peu nationale de ces choses-là. Donc je remercie M. Suissa d'avoir répondu à notre invitation. Je vais lui laisser le soin de se présenter, de présenter la décolle et de nous dire comment il voit les choses du point de vue français, si j'ose dire, peut-être même international, s'il a des connaissances dans ce domaine. Voilà, si vous voulez bien, allez-y.
Merci. Bonjour à toutes et à tous et merci à l'Espace Même des France de m'avoir gentiment invité. Je suis président d'une société de service qui s'appelle Adécol. C'est enregistré, donc il faut que je parle dans le micro. Bon. Très bien. Je suis donc président d'une société qui s'appelle Adécol, qui a pour vocation d'aider le développement des collectivités locales au travers de la promotion économique des zones d'activité. Donc concrètement, nous existons depuis à peu près 2011. Depuis fin d'année 2011, nous avons valorisé et nous valorisons les zones d'activité au travers d'un portail qui s'appelle zonesdactivité.com, de telle manière à pouvoir répondre à un certain nombre d'objectifs qui sont assez simples. Hein, c'est promouvoir à grande échelle les territoires, dont les parcs d'activité. Donc on ne fait pas que la promotion de parcs d'activité, mais on essaie de valoriser les territoires de manière assez large auprès d'investisseurs aussi bien locaux ou de porteurs de projets locaux, nationaux et internationaux. D'accord ? On a une petite particularité, c'est que le portail est traduit en anglais et en chinois mandarin. Voilà, je vous expliquerai un petit peu qu'est-ce que ça a également comme impact en termes de vision internationale par rapport justement à l'approche du développement territorial. Le deuxième objectif, c'est de fournir un certain nombre de services et d'outils professionnels adaptés aux problématiques des territoires. Et on est tous, puisque nous sommes 5 personnes, on est tous spécialisés en informatique des collectivités locales, en développement territorial, en développement informatique aussi, qui est un petit peu notre ADN. On est membre d'un certain nombre d'organisations, hein, le cluster EDIT, qui s'appelle maintenant le cluster numérique, Grilog, qui est un cluster ISER pour les logiciels informatiques, pour la partie numérique, le PILS, qui est le pôle industriel et logistique Europe du Sud, qui est basé à l'île d'Abo. Et puis Aradel, qui est une association rhône-alpine de développement économique local. On est également membre très proche d'un centre qui s'appelle le CIEDEL, qui est basé à l'Université catholique de Lyon. Et on travaille donc sur les problématiques de développement territorial au travers des zones d'activité. Alors, le contexte que l'on rencontre et le besoin et le paysage que l'on voit aujourd'hui au niveau du développement économique local, il est assez assez tranché. Le premier élément qu'on peut voir, c'est qu'il y a une concurrence nationale et internationale des territoires. On peut le voir au travers d'un certain nombre de projets récents d'implantation d'entreprises. Je pense en particulier au groupe Excel, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est spécialisé dans l'aéronautique. Ce groupe Excel, il a rayonné sur l'ensemble de la France. Il devait s'implanter en Rhône-Alpes. Ensuite, il est parti du côté de Fos-sur-Mer. Il a fait un petit passage du côté de Manchester. Et finalement, il est revenu en Rhône-Alpes, à Saint-Clair-du-Rhône, où il s'est installé. Donc, concurrence nationale et internationale des territoires, ça c'est un point récurrent, je dirais, aujourd'hui dans le débat économique. Le deuxième point que l'on peut constater, c'est quelle est la visibilité des parcs d'activité et des zones d'activité quand on discute avec un certain nombre d'élus. Tout le monde veut créer une pépinière numérique ou un cluster numérique ou une zone d'activité numérique ou une zone d'activité dédiée à l'économie verte. Et quand on multiplie ça à l'échelle de l'ensemble du territoire, ça veut dire que potentiellement, on peut se retrouver avec 3000 zones qui sont dédiées sur le numérique ou 3000 zones dédiées sur l'économie verte. D'accord ? Donc à un moment donné, il se pose un petit problème de visibilité et de manque de cohérence au niveau développement territorial, au niveau national et international. Troisième problématique que l'on constate hein, par rapport aux collectivités, c'est comment créer de l'emploi dans un bassin économique. Donc comment on arrive justement à fixer des emplois au travers d'un certain nombre d'initiatives au niveau d'un bassin économique. Comment devenir attractif également pour une entreprise, c'est-à-dire concrètement, je m'installe sur un territoire donné, comment est-ce que effectivement ce territoire peut concourir à mon attractivité? On voit que la réponse à cette question est plus facile sur un certain nombre de territoires. Je m'installe du côté de Grenoble, je vais avoir accès à au moins 5 centres de renommée mondiale. Donc ces 5 centres de renommée mondiale peuvent me permettre, effectivement, d'avoir une visibilité que je n'aurais pas forcément. Je m'installe en Lozère. Après, la question, c'est quelle est l'activité économique de mon entreprise et comment je peux capitaliser sur cette implantation pour pouvoir mieux aider à l'attractivité de mon entreprise ou mieux aider au développement économique de mon entreprise. Une question récurrente aussi, c'est quelles sont les actions de promotion de mon territoire que je peux mener ? Bien souvent, les élus locaux disent voilà, j'ai créé une page internet, j'ai créé un site web, et puis je suis la communauté de communes du pays des sources, je vais être visible du monde entier. Ça ne marche pas tout à fait comme ça, donc on essaie justement de réfléchir avec un certain nombre de structures, avec les élus, sur les actions de promotion à mettre en œuvre justement pour valoriser un territoire. Et puis, dernier point sur lequel on a beaucoup de travail avec justement les collectivités locales, c'est comment on peut faire connaître les avantages concurrentiels du territoire, comment on peut faire connaître ses filières industrielles et puis ses savoir-faire. On se rend compte effectivement au travers de l'histoire économique que l'aménagement du territoire résulte d'une histoire qui est ancrée dans un territoire. Donc ce territoire a un certain nombre d'atouts. Ces atouts sont valorisables. Après, la question, c'est comment on arrive effectivement à valoriser ces atouts pour permettre justement de répondre à des objectifs de développement économique et de pouvoir effectivement orienter le développement des zones d'activité économique vers des filières industrielles en rapport avec l'histoire du territoire et en rapport avec les atouts du territoire. Alors, je ne suis pas là pour faire ma publicité, hein, bien évidemment. Donc on essaie de répondre, comme je viens de vous l'indiquer, à l'ensemble de ces problématiques en apportant une information enrichie, détaillée, précise sur les autoroutes, les ports, les gares, les pôles de compétitivité, les clusters, les différents sites, les différents centres qui peuvent permettre effectivement de donner justement cette vision globale au niveau territorial et de permettre aux élus d'être en relation avec les bons interlocuteurs et que ces interlocuteurs puissent effectivement porter un projet au niveau du zone d'activité économique. Voilà, je lance le débat, effectivement. Donc j'espère ne pas avoir été trop long. J'essaierai de reprendre la parole en fonction des questions que vous pourrez me poser ou en fonction des remarques que vous pourrez m'adresser ou que vous pourrez nous adresser. Donc je vais laisser tout de suite le micro aux autres intervenants.
On va peut-être commencer dans un premier temps aussi par des questions précises peut-être sur
oui,
ce que vous
tout à fait, sur ce que avez je viens
dit
présenter.
Ou ce que, s'il y a des précisions. Puis après on enchaînera bien sûr. Mais s'il y a des demandes ou des réactions, hein, tout simplement. Donc n'hésitez pas. Et comme on enregistre, la règle c'est on se présente avant. Voilà, tout simplement. Puis en même temps ça nous permet de mieux vous connaître. On en connaît quelques-uns. Mais... Oui.
Donc Lucie Légron pour la coopérative des tiers-lieux. Je vais poser une question assez bête, mais à quoi ça sert aujourd'hui les zones d'activité ?
Voilà une excellente question. C'est une excellente question. Aujourd'hui, une zone d'activité sert à développer l'activité économique d'un territoire en fixant un certain nombre d'entreprises industrielles ou d'entreprises de services sur un lieu donné, sur un périmètre donné. Donc l'objectif, c'est bien évidemment de créer de l'emploi, hein, de figer de l'emploi et de fixer de l'emploi sur un bassin économique. Et puis l'objectif, c'est effectivement de pouvoir valoriser un certain nombre d'activités au niveau d'un territoire, de telle manière justement à concourir à ce développement économique. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, qui n'est pas du tout triviale, justement, puisque c'est une question qui est au cœur aujourd'hui des problématiques de développement économique.
J'aperçois une main qui se lève au fond.
Bonjour, Florent Blain, animateur culturel. Je voulais savoir, donc vous parlez de promotion des zones d'activité et promotion des territoires. Je voulais savoir ce que vous mettiez en œuvre pour faire le lien entre les zones d'activité et les territoires.
Alors, qu'est-ce qu'on met en lien ? Donc aujourd'hui, si vous voulez, concrètement, on crée, pour être tout à fait concret, quand on assure la promotion de la zone d'activité économique, on va créer une page spécifique dédiée à la zone d'activité. Dans cette page, on va présenter un certain nombre de choses. Donc on va présenter toutes les autoroutes, tous les ports, toutes les gares, toutes les potentialités, si vous voulez, qu'un investisseur ou qu'un porteur de projet pourra trouver à un moment donné, non seulement sur la zone d'activité en tant que telle, mais également sur le territoire. Une de nos réflexions à l'heure actuelle, c'est de créer une page supplémentaire pour pouvoir présenter le territoire de manière plus complète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, selon les collectivités, on a effectivement un descriptif assez détaillé de la zone d'activité économique en disant, voilà, on a 3 hectares, 5 hectares, 12 hectares, peu importe. On peut accueillir tel type d'activité, mais il manque un petit peu ce volet environnement économique qu'on essaie d'apporter au travers justement de la notion de bassin d'emploi. Je m'installe, par exemple, je suis une entreprise industrielle, je veux m'installer du côté de Chalon-sur-Saône. Est-ce qu'effectivement, si je crée 300 emplois, je ne vais pas déséquilibrer le bassin d'emploi sur lequel je m'installe ? Donc concrètement, on essaie d'apporter ces informations aux porteurs de projets pour que, justement, ils aient l'intégralité des informations disponibles sur un territoire. Alors, c'est toujours un travail en perpétuel renouvellement. On apporte également une vision par rapport au pôle de compétitivité, au cluster, donc également à toutes les structures, systèmes productifs locaux, à toutes les structures qui, à un moment donné, valorisent un savoir-faire ou une filière industrielle. Mais aujourd'hui, c'est vrai, on n'a pas encore abordé l'aspect politique culturelle, politique de l'environnement, patrimoine, qui permettrait effectivement de faire mieux comprendre l'approche, la cartographie d'un territoire et ses spécificités par rapport au volet zone d'activité économique. Donc ça, c'est encore un travail qui nous manque un peu, sur lequel on est en train de réfléchir, justement. On en parlait à midi lors d'une discussion avec les autres intervenants. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nécessiterait une réflexion un peu approfondie pour pouvoir enrichir cette vision territoriale. Merci de votre question.
D'autres questions ? Sinon, je vais demander à M. Valentin de vous rester, hein, puisqu'on participera après un peu collectivement. Lucille nous rejoindra aussi après. Mais tout d'abord, M. Valentin, qui est donc fondateur de Relais d'entreprise, il va nous dire ce que c'est voilà, et président du club des entrepreneurs du Sud Toulousain par ailleurs. Donc, je vous laisse vous présenter et présenter votre intervention.
Merci et bonsoir et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, pour faire la transition avec la précédente présentation, on parle effectivement de zone d'activité. Et comme il vient d'être précisé, la zone d'activité a pour vocation à créer des emplois sur un territoire. Je suis issu, moi, depuis maintenant... non, c'est la petite vidéo qui va avec. Il y a une petite vidéo. Je suis issu, moi, du monde du conseil aux entreprises, d'une part, et conseil auprès des collectivités. Et en fait, ce que je vais vous évoquer avec l'initiative Relais Entreprises, on le mettra après, ça. Pardon. Et voilà, merci.
On n'a pas répété.
Ouais, on n'a pas répété, c'est en live. Et en fait, c'est les 4 leviers pour rapprocher l'emploi de l'habitat. Ayant été pendant plus de 20 ans dans le métier du conseil aux entreprises, le premier levier sur un territoire pour créer des emplois, c'est de faire en sorte que les entreprises d'un territoire se développent. À minima, qu'elles ne créent pas de chômage, donc qu'elles ne licencient pas. Donc de prévenir au maximum les risques de défaillance d'une entreprise. Donc c'est les signaux faibles qui sont souvent observés. Hein, les premiers, effectivement, problématiques de paiement des fournisseurs, des retards de paiement. Le deuxième levier, on vient de l'évoquer, souvent celui qui est actionné d'ailleurs par les collectivités territoriales, c'est le fait de créer des zones d'activité en espérant que des entreprises vont venir s'installer sur ces zones d'activité. C'est coûteux, c'est très coûteux. Souvent, les zones d'activité ne font que redéplacer les emplois qui étaient déjà présents dans des centres-bourgs et vident de l'activité économique les centres-bourgs qui deviennent déserts avec toutes les problématiques qu'on observe hein, sur la fermeture des magasins. Donc ça, effectivement, c'est la problématique des zones d'activité. Avec la loi NOTRe et la fusion des intercos, on se retrouve avec des territoires qui ont pléthore de zones d'activité, qu'ils vont devoir requalifier, qu'ils vont devoir segmenter, amener un marketing territorial pour donner un peu plus de visibilité à ces zones d'activité. Effectivement, ça va être le gros chantier.
Sectorisé.
Voilà, sectorisé, ça va être le chantier là, dans les mois à venir, après janvier 2017 et la fusion de la plupart des intercos. On a un troisième levier important, très important celui-ci, c'est la dynamique entrepreneuriale sur les territoires. C'est favoriser la création d'entreprises. Donc beaucoup de collectivités ont mis en place des pépinières, beaucoup de grands groupes ont impulsé des incubateurs pour justement faire en sorte qu'il y ait les futurs Bill Gates qui, à un moment ou à un autre, créeront plein d'emplois autour d'une idée, d'une innovation. Là aussi, il y a un peu de fantasme, beaucoup autour de l'économie numérique. On espère effectivement qu'un passionné d'une énième application smartphone va devenir une licorne et créer des milliers et des milliers d'emplois. Relais d'entreprise, et vous allez le voir dans le petit film, et quand bien même nous n'avons absolument rien inventé, chez nous il n'y a pas d'ingénieurs, il n'y a pas de technologie, il n'y a pas de numérique pour après, hormis effectivement l'utilisation d'une connexion Internet. Ceci dit, comme va l'expliquer le petit film, je vous mets au défi de trouver une innovation qui permette autant.
Pas toujours adapté.
Vous entendez ?
Relais d'entreprise apporte une réponse nouvelle et innovante au problème de mobilité pendulaire des salariés et à l'isolement des entrepreneurs. Nous facilitons l'implantation de bureaux au plus près de l'habitat. Facile d'accès ou à 10 minutes maximum en transport, les relais d'entreprise offrent une alternative au travail à domicile, dans des bureaux meublés et modernes, connectés à Internet au débit. Ces bureaux sont également des lieux de rencontre qui contribuent à faire vivre les quartiers et les commerces qui s'y trouvent. Nous n'avons pas inventé les bureaux meublés, mais Relais d'entreprise a pour ambition de favoriser les échanges et améliorer la productivité, redonner du pouvoir d'achat et soutenir le commerce de proximité, maintenir une qualité de vie et respecter l'environnement. Vous aussi, vous souhaitez préserver un équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Trouvez le relais d'entreprise le plus proche de chez vous.
Pas trop de son, mais l'idée est là. L'idée et la thématique que je souhaitais développer cet après-midi, c'est effectivement rapprocher l'emploi à l'habitat sans demander à des salariés de démissionner pour essayer de trouver une entreprise proche de là où ils habitent. On a un phénomène qui s'accélère, sur lequel nous militons pour effectivement essayer de contrer cette urbanisation et cette métropolisation où plus de 80% de la population vit aujourd'hui dans les villes, au détriment du développement de beaucoup de territoires périurbains, territoires ruraux, ce qu'on appelle aussi la campagne urbaine, qui ressemble plus trop à la ville, qui ne ressemble pas à la ville, mais qui n'est plus non plus de la campagne à proprement parler. Donc on a effectivement, nous, depuis maintenant plusieurs années, développé, et on aura d'autres témoignages sur cette notion effectivement de télétravail, sur ces logiques de tiers-lieu, hein, de troisième lieu, qui n'est pas ni la maison ni le lieu dans lequel on se rend habituellement, et qui permet justement, comme l'évoquait le film, de pouvoir soutenir une économie résidentielle, hein, une économie de proximité, tout en apportant également une qualité de vie par rapport à tous ceux qui se fatiguent et qui se ruinent dans des déplacements pendulaires et qui s'asphyxient aussi avec toute la problématique effectivement de pollution et de gaz à effet de serre. Donc Relais Entreprises, que j'ai créé en 2000, 12 et qui est devenu depuis maintenant un réseau national de tiers-lieux, donc de bureaux meublés, différent de ce que l'on peut entendre aussi dans un terme qui s'appelle le coworking, hein, où souvent on a une confusion entre ces espaces d'échange, d'hybridation, voilà, de fertilisation croisée dans différents domaines, et ce qui est recherché aujourd'hui par la plupart des actifs, qu'ils soient salariés ou entrepreneurs, et ils seront de plus en plus nombreux. Je crois qu'aujourd'hui, espérer faire venir une entreprise sur un territoire qui va créer 200-300 emplois, c'est plus du tout un modèle que l'on peut effectivement préconiser pour du développement économique territorial, du fait de la concurrence qu'il peut y avoir avec toutes les zones d'activité, de par la concurrence qu'il peut y avoir au niveau mondial. Moi qui travaille encore dans le métier du conseil en entreprise, et notamment sur les fusions, acquisitions, cessions, transmissions, quand vous allez effectivement à l'étranger et que vous parlez de la France, c'est franchement pas le pays auquel effectivement les investisseurs pensent en premier pour venir effectivement s'installer, y compris même et malgré tout dans des filières pourtant où on a un peu d'excellence comme l'aéronautique, où c'est pas forcément la France qui sera retenue. Donc on se rend compte aujourd'hui que effectivement ça fait parler, hein, des Alstom, 400 emplois, ça fait la une des journaux. Par contre, ce qu'on dit pas, c'est que sur ce même territoire de Belfort, peut-être qu'il y a eu 400 créations d'emplois par 400 entrepreneurs complètement invisibles et qu'il faudra nécessairement peut-être à un moment ou à un autre mettre dans une dynamique un peu de collectif, peut-être autour d'une association qui regroupera ces entrepreneurs pour les rendre un peu plus visibles et pouvoir justement mutualiser. Nous, dans tous les cas, Relais Entreprise, on évoque qu'il est pertinent sur les territoires ruraux de bien dissocier l'immobilier de travail, comme on vient de le voir, qui sont des bureaux avant tout individuels, alternatives à la mobilité, alternatives au travail à domicile. La dynamique du lieu, elle s'opère d'elle-même. On parlait du fait que, quelque part, les relais entreprises, c'était un peu les lavoirs numériques des temps modernes. Et à l'époque où les familles, les personnes se retrouvaient autour du lavoir, il n'y avait personne qui était là pour animer le lavoir. Les personnes discutaient d'elles-mêmes, les unes avec les autres. Mais là, dans un tiers-lieu relais entreprise, c'est exactement la même chose. Les personnes qui ont des bureaux individuels discutent les uns avec les autres sortent de l'isolement sans qu'il y ait quelqu'un à payer pour effectivement créer cette dynamique. Par contre, la dynamique territoriale, c'est différent. Il s'avère que j'ai créé, en même temps que je crée le premier relais entreprise, le Club des entrepreneurs du Sud Toulousain. Et cette association d'entrepreneurs, hein, donc état d'esprit plus qu'un statut de chef d'entreprise, parce que souvent il y a des clubs d'entreprise, mais sur des territoires ruraux comme nous, on peut l'être dans le pays sud toulousain, bah, les entreprises, on les compte sur les doigts d'une main. On n'a pas Airbus, on n'a pas Alstom, on n'a pas effectivement Thales sur notre territoire, on a de très très petites entreprises. Plus de 90% des entreprises de notre territoire n'ont pas de salariés, donc ce sont des travailleurs non salariés, des indépendants. Et par contre, quand on les met autour d'une table, quand on les réunit dans une salle pour travailler sur différents événements, des événements tels que des forums de l'emploi, tels que différentes manifestations que des collectifs d'associations, enfin un collectif dans une association peut effectivement organiser, ben là ça prend forme. Donc c'est pour ça que je voulais effectivement apporter un témoignage sur le quatrième levier pour approcher l'emploi de l'habitat, par le fait aujourd'hui qu'on peut travailler de n'importe où, hein, un métier sur deux peut se pratiquer à distance, et on va nous être présents sur Parcours France, qui est une initiative intéressante pour mettre en avant la dynamique entrepreneuriale qu'il peut y avoir sur les territoires. Et souvent, nous, en retour de vacances, quand tout le monde s'est émerveillé pendant les 5 semaines de congé d'avoir découvert des lieux splendides, et 47 semaines par an s'obligent et se retrouvent coincés dans des embouteillages ou dans des environnements pollués, en leur disant « Mais est-ce que vous avez vraiment besoin d'attendre 5 semaines par an pour effectivement vivre dans des endroits magnifiques ?» sachant que votre métier, fort probablement, pourrait se réaliser là où vous l'avez souhaité. Hein, et faites l'inverse, faites de vos résidences secondaires, quand vous en avez une résidence principale, et allez de temps en temps, bien sûr, à la capitale ou dans les grandes villes pour effectivement rencontrer ceux que vous avez envie de rencontrer. Ça veut dire effectivement qu'il faut changer les habitudes, il faut changer effectivement sa façon de travailler, sa façon de se déplacer. Et c'est ce que nous apportons au quotidien dans nos accompagnements au niveau des territoires et des différents projets d'espace de travail à usage flexible, si on veut utiliser un autre terme que tiers-lieu.
Merci de cette présentation. Juste une précision pour ceux qui n'ont pas très bien écouté, c'est enregistré de toute façon et ça sera sur le site de l'EMF, donc vous pourrez y revenir. Mais peut-être des questions directement après cet exposé. Et la règle, c'est on se présente.
Bonjour, je m'appelle Dany Biard. Je suis dans ma troisième vie professionnelle. Je voudrais faire d'abord un commentaire. Pour travailler à distance, il faut un Internet qui fonctionne. Moi, je suis en Deux-Sèvres et je suis en panne un jour sur deux. Voilà. Donc, tant que les réseaux ne seront pas meilleurs, c'est de l'illusion de croire que, en dehors de, je dirais, 5 km autour d'une ville, on puisse vraiment fonctionner avec l'Internet. Et ça, c'est un gros problème. Ce n'est pas de votre faute à vous, hein, je sais bien. Mais tant qu'on ne le criera pas, tant qu'on ne le manifestera pas avec violence, peut-être qu'on ne sera jamais entendu. Par contre, la question, elle est que moi, je n'ai pas besoin de locaux bureaux. J'ai besoin d'un local pour faire un studio photo. Voilà.
Sur votre première, sur le premier point, c'est exactement la même chose là où on a installé le premier relais entreprise. Nous n'avions même pas un méga. Et justement, le fait de pouvoir mutualiser des besoins de connexion Internet nous a permis de faire venir un opérateur en zone blanche qui certes nous coûte aujourd'hui 300 € par mois, mais répartis sur 10 bureaux, c'est tout à fait digeste. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est justement le pouvoir faire émerger, faire sortir de terre des lieux où justement la réponse à une problématique de connexion sera possible, alors qu'individuellement, vous n'allez pas payer 300 € par mois pour vous toute seule pour effectivement vous connecter. Et ensuite, ce que vous évoquez est important aussi, c'est-à-dire que ces lieux nouveaux d'activité peuvent avoir plusieurs vocations. Nous, on le voit, on a des espaces qui peuvent avoir, comme vous l'évoquez, une approche sur un atelier de photo, sur un Fab Lab, donc pour effectivement faire de l'impression numérique 3D. Il peut y avoir aussi des maisons de citoyens. En Corse, nous avons accompagné un territoire qui a développé ce qu'on appelle des Spa Zoo en Corse, à l'intérieur desquels on va retrouver des espaces d'e-citoyenneté avec des ordinateurs connectés sur différents services. On va y retrouver des expositions culturelles, de peinture, de sculpture, et des espaces de travail, donc relais d'entreprise, pour pouvoir travailler. Donc on peut avoir comme ça une hybridation de lieux, et c'est justement ce qui est intéressant sur les territoires, c'est de pouvoir, sur chaque territoire, mettre en place une configuration qui colle aux besoins recensés tels que le vôtre.
D'autres questions ? D'autres demandes de précision ? Ben écoutez, je vous propose de vous rejoindre. Et puis, je demande à Lucille de venir, au titre de la coopérative des tiers-lieux. Voilà.
Bonjour, donc Lucille Ligron pour la coopérative des tiers-lieux. Pardon.
Ah. Désolé.
C'est pas moi, en photo. Non. Ok, donc Lucie Légron pour la coopérative des tiers-lieux. Donc nous, on est une société coopérative d'intérêt collectif qui détectons des porteurs de projets de tiers-lieux, on les accompagne et on les fédère donc, autour du réseau. Donc c'est quoi un tiers-lieu ? Donc c'est tout ce qui va concerner les coworking, les espaces de coworking, les Fab Labs, les lieux hybrides. Donc, moi, on m'a demandé d'intervenir sur les zones d'activité. Alors, la zone d'activité, pour la plupart d'entre nous, ça a concerné toute cette grande zone commerciale, artisanale, tous ces grands champs là où on va installer des grands pôles. Je ne suis pas hyper fan, hein, déjà. Je ne sais pas qui adore les zones d'activité, à part monsieur qui en vit. pour moi, du coup, effectivement, comme le disait Monsieur Valentin, c'est effectivement des emplois qui sont détournés et qui sont aspirés en dehors des villes, donc avec la perte des centres-bourgs. Et donc, on a des exemples assez touchants, nous, en Orgironde et un peu partout, je pense, en France, sur des centres-bourgs qui se désertifient, donc des commerces finalement qui vont préférer aller prendre une franchise à l'intérieur du centre commercial qui contourne la ville. Hein. Maintenant, on contourne toujours les villes. Il n'y a plus de centralité, on n'y va plus. En dehors aussi de la pollution visuelle quand même de ces espaces, ce sont nos entrées de ville, en fait. Ces zones d'activité, elles sont conçues comme ça. Je ne suis pas urbaniste, je ne suis pas sociologue, c'est juste un point de vue personnel où, effectivement, moi, j'ai quand même beaucoup de mal à penser l'économie des territoires de cette façon-là. Donc, on est plutôt, nous, sur une approche locale, c'est-à-dire qu'on n'a pas des ambitions internationales, nationales, on a des ambitions locales. Et en fait, ça, c'est déjà assez important à dire. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de gens qui se mobilisent autour d'espaces de travail partagés et collaboratifs dans des petites villes, dans des moyennes villes, dans des grandes villes, pour imaginer des lieux collectifs. Alors oui, de travail, il y a du bureau, on loue du bureau, on loue de la salle de réunion, mais au-delà de cet aspect métier locatif, en fait, on est quand même aussi beaucoup sur des lieux de coopération. Et qui, donc vous parliez justement qu'il n'y avait pas forcément d'emploi, voilà, que c'était de la location de bureau. Nous, on milite quand même fortement pour le métier de facilitateur, qui est la personne qui va gérer et animer ces lieux-là au niveau local, qui va mettre en lien les entrepreneurs, les associations, les habitants, les télétravailleurs avec le territoire. Et en fait, nous, on considère que la zone d'activité, finalement, ce sont nos petits lieux, nos petits espaces de coworking, nos petits Fab Labs, où, finalement, le lieu est un objet de coopération à part entière. C'est-à-dire que pour nous, ce sont... Enfin, à 70%, on a travaillé avec Siegfried, là, qui est avec moi, du CRIJ, sur un grand recensement en Nouvelle-Aquitaine des lieux qui existent, et on est à 70% sur des lieux qui sont gérés de façon associative, sous forme de SCOP ou de SIC. Donc, ce sont les gens qui gèrent et animent leur propre lieu. Et en fait, au-delà de ça, il faut imaginer que finalement, ce lieu, c'est un objet de coopération entre acteurs locaux. Donc c'est un prétexte finalement à essayer de travailler ensemble, à essayer de construire des choses, des projets. Et au-delà de ça, si on y réfléchit, donc le lieu, c'est un objet, mais tous les projets finalement peuvent être prétextes à la coopération, à la rencontre et avec le lien avec le territoire. J'ai un exemple, donc celui de... La Réminute, donc c'est un espace que j'ai créé il y a 6 ans, en 2010, à Pomerol, et qui maintenant s'est délocalisé à Libourne et à Coutras, parce qu'on était, trop petits. Et donc on a commencé à travailler avec l'office de tourisme. Donc on les a reçus chez nous en leur disant, ben voilà, est-ce que vous voyez le lien qu'on peut avoir tous les deux, quel projet on pourrait mettre en place ensemble. Et donc l'office de tourisme n'était pas forcément... n'avait pas forcément d'idée, et donc on a décidé qu'on allait mettre en lien tous les acteurs touristiques du secteur avec tous les gens qui venaient travailler chez nous sur la création d'une offre de tourisme d'affaires qui n'existait pas sur le territoire. Et voilà, en se disant, on y arrive, on n'y arrive pas, peu importe, en tout cas, on se sera rencontrés, on aura créé du lien localement ensemble, on aura tenté quelque chose. Donc voilà pour moi sur la partie zone d'activité. Pour moi, je suis pas pour les gros ensembles. On travaille vraiment localement sur des petits projets avec tout un tas d'acteurs multiples en transversalité. Et donc, généralement, quand on est sollicité par les collectivités publiques qui veulent tous leur tiers-lieu, on va travailler avec l'enfance jeunesse, parce que du coup, il y a tout un tas d'étudiants, de jeunes qui peuvent être sensibilisés aux nouvelles pratiques numériques, qui se posent des questions en termes d'orientation. On va travailler avec le développement durable aussi pour sensibiliser les gens au télétravail. Donc, comment s'éviter les transports inutiles pour aller travailler à une heure de chez soi. On travaille bien sûr avec la partie économique. Et là, avec le tourisme, enfin, finalement, ce sont des lieux transversaux où chaque pan des compétences des collectivités peuvent insuffler des projets locaux. Et puis après, nous, on fait pas mal de veille aussi sur finalement tout ce qui est friche. Il y a beaucoup de lieux qui se sont créés comme ça. Il y a des très beaux exemples. Donc à Ligugé, il y a Darwin à Bordeaux, des gens qui ont investi ces lieux qui ont été à un moment donné complètement délaissés. Et donc, quid des friches commerciales dans 20 ans peut-être ?
Bien. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions à l'issue de... Voilà.
Alors, elle n'est pas très réfléchie, ma question, mais je vais la sortir. Christelle Fex, je travaille sur un dispositif régional qui s'appelle l'atelier des BRDE, et en pleine réflexion sur un développement de carrière sur un autre métier, puisque ce dispositif prend fin. est-ce qu'il y a une étude qui a été faite comparative entre le coût de la mise en place de vos différentes activités, le coût pour les habitants, en fait, c'est-à-dire dans le cadre des zones d'activité économique, quel est le coût par habitant de l'installation et du fonctionnement de celui d'une initiative privée ou celle d'une initiative collective?
Ben oui, c'est une bonne question. Alors, je sais pas. Je sais qu'il y a des dispositifs d'aide à l'amorçage pour ce type de lieu. Donc, on n'est pas dans la perfusion publique d'injecter des fonds publics, en tout cas sur nos lieux. Sur les 154 lieux qu'on a recensés, nous, en Nouvelle-Aquitaine, il y en a 60% qui ont été aidés à l'amorçage. Généralement, ça constitue des enveloppes entre 10 et 50 000 euros à tout casser sur les 2-3 premières années. Et après, en fait, comme c'est les gens qui font, qui ont envie de trouver leur lieu de travail et la rentrée en septembre, eh ben, ils se démerdent et c'est leurs petites contributions qui vont augmenter pour préserver le lieu. Être créatif aussi en termes de services. Enfin, voilà, en fait, les gens, quand on est un peu dans la panade, finalement, on est très créatif.
Allez-y.
Oui, par rapport aux zones d'activité, puisque j'ai entendu aussi le mot zone d'activité, par rapport à la... Oui. Alors, le gros souci qu'on a oui, effectivement, on a des éléments de mesure, mais on a des éléments de mesure instantanés. C'est-à-dire qu'on est capable de dire, à un instant T, combien a coûté ou combien coûte une zone d'activité qui est aménagée. Le seul souci et la seule mesure qu'on n'a pas, c'est combien ça peut rapporter dans 20 ans ou dans 25 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étude, entre guillemets, longitudinale, qui permettrait de savoir, concrètement, si je reprends l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure par rapport à Excel, qui est une société qui travaille sur des fibres composites pour l'aéronautique, pour élaborer en fait des cockpits d'avions en fibre de carbone, donc avec un poids inférieur de 30%, etc. Pas mal d'avantages. La grosse question qui aujourd'hui, enfin la question qui est posée, elle n'est pas grosse, elle n'est pas triviale, mais la question qui est posée effectivement, c'est à un instant T, on sait mesurer le coût d'élaboration d'une zone d'activité compte tenu de ce qui a été investi, compte tenu des coûts d'entretien, etc., etc. Ce qu'on ne sait pas calculer aujourd'hui, c'est l'impact de cette zone d'activité dans 15 ou 20 ans. Donc c'est un outil d'aménagement du territoire, effectivement, parfois avec de mauvais côtés comme la zone d'activité avec le centre Leclerc et puis Noroto, etc., etc. Donc c'est pas très joli, c'est pas très concerté. Ce sont parfois des décisions urbanistiques un peu bizarres, hein, soyons clairs. Par contre, d'un point de vue économique, oui, on ne sait pas toujours calculer quel sera l'impact de la zone d'activité dans les 15 ou 20 ans à venir. Et ça, aujourd'hui, bien malin qui peut le dire.
Un autre complément par rapport au modèle économique. Nous, dans tous les cas, quand on accompagne un territoire et quand on accompagne une collectivité, on va, dans un premier temps, préconiser le fait de réutiliser des bâtiments publics non occupés. Ancienne école, ancien bureau d'une communauté de communes qui a fusionné avec une autre communauté de communes et qui libère des espaces. Donc, et il y en aura beaucoup là, à partir de janvier 2017. Et nous sommes en train surtout de... Et j'ai un exemple concret pour dire à un citoyen qui paye ses impôts, et surtout qu'en ce moment on paye les taxes foncières, là. Donc c'est d'actualité. On vient d'accompagner un territoire qui a cloisonné une ancienne salle de classe d'un collège, en face de la mairie. Ça lui a coûté 15 000 euros pour créer 3 bureaux individuels et un petit espace café pour effectivement favoriser les échanges. Le revenu locatif de ces 3 bureaux est de 1 000 euros par mois. Donc en un peu plus d'un an, ils vont avoir un retour sur investissement. Donc c'est très concret. Ensuite, nous sommes en train de travailler sur des leviers, notamment la valorisation de la taxe carbone, puisqu'on est capable de démontrer qu'une personne qui faisait 40 km, c'est les primo-accédants par exemple à la propriété à Toulouse, se loge à 40 km de Toulouse. Donc quelqu'un qui ne fait pas 40 km aller et 40 km retour, ça fait des économies de CO2 qu'un obligé à la taxe carbone peut valoriser. Donc ça, c'est un autre levier de financement. Et l'autre levier de financement, là, il fait l'objet d'un projet de loi qui est également porté par le Sénat sur la valorisation de la CVAE, ancienne taxe professionnelle, au prorata de la présence d'un collaborateur, non pas dans la commune d'affectation de son emploi, mais la commune où il va exercer son activité. Donc si vous avez un télétravailleur qui est 50% de son temps là où il habite et non pas 50% de son, et non pas 100% de son temps dans la métropole où les zones d'activité ont attiré des entreprises, ben la taxe va se traverser à la commune où il y a un tiers-lieu. Et ça, ce sera effectivement un levier fiscal intéressant pour favoriser l'émergence de tiers-lieux et le soutien des collectivités sans venir ponctionner des taxes supplémentaires aux habitants.
Sans vouloir arrêter les échanges, au contraire, juste pour que les différents partenaires présents à la table réfléchissent, comment ça va se passer pour la Nouvelle-Aquitaine, peut-être, sur les tiers-lieux? Je ne sais pas si tu as des éléments, Lucille, tu peux peut-être répondre. Et puis par rapport aux communautés de communes qui vont, à partir du 1er janvier, évidemment, se retrouver regroupées, les enjeux par rapport à la fiscalité, je ne sais pas, Monsieur Valentin, si vous avez un éclairage là-dessus à donner. Sinon, la parole est à vous. Je leur laisse le temps de réfléchir là-dessus.
Jean Renaud, Conseil de développement de Grand Poitiers. Deux petites questions très concrètes. Vous êtes une SIC, donc il y a une ou des collectivités qui financent. Quelles sont-elles là, pour la région? Est-ce que c'est l'ancienne région Aquitaine, la nouvelle Aquitaine? Est-ce qu'il y a des collectivités territoriales infra-régionales? Et deuxième question, les 150, quand vous dites 154, c'est 154 tiers-lieux sur la nouvelle région ou sur... que l'ancienne?
Non, sur la nouvelle région. C'est un recensement qui est très récent, qui a été fait en juillet, là. Voilà. Donc, nous, on est une société coopérative, effectivement. Aujourd'hui, on n'a aucune collectivité publique parce qu'on n'a pas demandé à la région qui nous avait pourtant propulsé, hein, il y a 5 ans, de rentrer au capital. On est financé à 10% de notre budget total en fonds publics. Le reste, c'est que de l'accompagnement. Voilà. Après, on a un contrat avec la région, on a gagné un marché public, et donc ça me permet de répondre aussi à la question de Jackie Deniol sur comment on va travailler à l'échelle de la grande région avec nos pairs Picto-Charentais et Limousin. Donc on a gagné un marché public avec la région sur 2 ans, justement, sur différents axes, notamment tout ce qui est veille, benchmark, prospective. Sur tout ce qui est recensement, valorisation des lieux existants pour que les gens soient au courant qu'il existe une alternative près de chez eux. Donc on continue à travailler sur le maillage des espaces en Nouvelle-Aquitaine et puis sur l'accompagnement de projets, enfin voilà, bref. Du coup, pour répondre à cet appel à projet, comme ça s'est lancé au moment où il y avait la fusion, on a été chercher des homologues et des pairs. Donc on a tout un tas de pôles d'experts et des co-traitants qui sont avec nous sur ce marché. Donc on apprend à se connaître, à travailler ensemble. Voilà, donc il faut le temps, quoi, en fait. Et puis après, il y a voilà, des façons de fonctionner qui sont différentes. Donc, du coup, c'est un bon prétexte, encore une fois, pour coopérer.
Siegfried, tu peux... Non. Oh. Je connais
un nom que tu as découvert. Bonjour, donc Siegfried du CRIJ de Poitiers, co-traitant avec la COP des tiers-lieux. Et je ne sais pas ce que vous voulez que je dise. Une chanson? Non, je trouve que c'est intéressant justement que Lucille et ses collègues soient venus chercher des gens dans les autres régions parce que ça permet justement d'éviter les petites concurrences, ces choses comme ça. Parce qu'on avait ici en Poitou-Charentes déjà monté un collectif, du coup on a pu refusionner tout ça, enfin pas fusionner, mais en tout cas trouver des points communs. Voilà, et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
C'est déjà bien, merci. D'autres questions? Je n'oublie pas ma question sur rien, mais voilà.
Je me présente, Céline Pires, je travaille pour la communauté de communes de Grande Champagne. J'ai la malchance de gérer des zones d'activité. J'ai également travaillé en Dordogne où je vous ai rencontré puisqu'on travaillait sur un projet de télécentre à l'époque. Ma question, c'est l'opposition de télétravail, zone d'activité. Je suis pas trop d'accord avec vous. J'aimerais bien surtout qu'il y ait un dispositif qui fasse comprendre aux entreprises que ça fait partie du bien-être de leurs salariés de les mettre en télétravail. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas.
Alors, on avait bien tenté des choses quand on a démarré entre 2011 et 2014. Et c'est vrai que, je ne vous le cache pas, on s'est vraiment épuisé, quoi.
On avait l'ADEME en partenaire, la Chambre de commerce de Bordeaux. Enfin, voilà, on avait tout un tas de gros partenaires derrière nous et c'était dur, dur. Après, quand même, maintenant, je vois passer les gens la porte de l'arrêt minute, là. Il y a 2-3 ans, je n'avais pas un seul télétravailleur salarié qui passait la porte. Et aujourd'hui, là, à la rentrée de septembre, j'en avais une dizaine qui passait la porte. Donc, je me dis, ça mature et souvent, ça vient de la part des salariés. C'est-à-dire, c'est eux qui sont les vrais moteurs et qui vont engager les démarches. C'est eux qui font le travail. Après, effectivement, il y a tout une sensibilisation à faire auprès des dirigeants, parce que c'est eux quand même qui ont la décision finale, pour effectivement leur faire comprendre que c'est bénéfique à tout le monde, et y compris à l'entreprise. Et après, je pense qu'il faut mettre aussi une petite boîte à outils, maintenant qu'il y a pas mal de structures qui ont testé, qui ont des méthodologies, des procédés de comment on peut arriver à mettre en place le télétravail pour l'ensemble des salariés de l'organisation. Donc ça, c'est des petites choses sur lesquelles on va plancher.
Je vais reprendre la suite. Effectivement, on mène avec Lucie le même combat depuis plusieurs années. C'est une croisade, hein, c'est un sacerdoce. Et on ne s'épuise pas trop, finalement, parce qu'on voit que ça bouge et y a des belles perspectives. En 2018, le télétravail va être une cause nationale. Les services de l'État, depuis l'application de la loi Sauvadet, sont les premiers aujourd'hui à montrer l'exemple. Les collectivités montrent l'exemple aussi, réfléchissent de plus en plus, et notamment avec les grandes régions et les grandes intercos, où des collaborateurs vont être amenés à être affectés à des bureaux qui sont bien éloignés de leur domicile. Les PDE, plans de déplacement entreprise, qui vont être obligatoires pour toute entreprise de plus de 100 salariés à partir de 2018. Et dans les PDE, vous avez la mesure du télétravail comme étant une réponse à la problématique de mobilité qui est la source principale de stress en entreprise aujourd'hui, l'accès au siège, au site de l'entreprise. Là où je vous rejoins, n'opposons pas effectivement zone d'activité et télétravail, au contraire. Le télétravail peut être une réponse pour attirer des talents dans des entreprises par rapport aux conjoints, quel qu'il soit, qui n'aura pas forcément les compétences ou la velléité de travailler dans une entreprise qui s'installe dans une zone d'activité et qui, justement, peut être un frein pour certains territoires où on se dit, mais mince, il n'y a peut-être pas d'emploi pour les deux. Et c'est ce qu'on voit, nous, par exemple, sur Toulouse. On a effectivement 15 000 habitants qui arrivent chaque année. On a Airbus qui embauche et qui embauche, sauf qu'on a un taux de chômage qui ne descend pas. Parce qu'à chaque fois que vous embauchez quelqu'un dans l'aéronautique, ben vous avez aussi le conjoint qui ne va pas forcément travailler dans l'aéronautique. Donc, et comme ils ne vont pas se loger à Toulouse parce que c'est devenu hors de prix, ben on va avoir effectivement des personnes qui vont être condamnées à faire des déplacements pendulaires ou à ne pas trouver de travail sur un territoire dortoir. Donc c'est pour ça que le télétravail va permettre à des personnes, comme je l'évoquais tout à l'heure, de pouvoir travailler de n'importe où, à condition bien sûr qu'on lui fasse confiance. Et la mise en place aujourd'hui du télétravail, il y a tout un mode opératoire. Il faut effectivement que la personne ait une certaine ancienneté dans l'entreprise pour avoir effectivement un niveau de confiance suffisant. Et puis aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour avoir des retours suffisamment concrets de l'efficacité du télétravail en matière de productivité, de réduction de l'absentéisme et tous les bienfaits du fait de ne pas se déplacer pour effectivement envoyer des mails ou passer des coups de fil.
Est-ce qu'il y a d'autres...
Oui, juste une intervention très brève, oui, en réponse à votre remarque. Je vous invite à regarder ce qui a été fait sur la Loire, en particulier par rapport au numérique, sur le département de la Loire, avec les NIT et le cluster Numélink, justement, qui est le conseil général de la Loire, a favorisé l'émergence de télécentres sur Saint-Jules-la-Pendu, sur un certain nombre de villes qui étaient à mi-chemin entre Roanne et Saint-Étienne. Au besoin, je vous donnerai tout à l'heure les coordonnées de la personne qui a coordonné cette action au niveau du cluster Numélink, qui est l'actuel directeur du cluster.
Précisément, monsieur Suissin, mais vous pourrez peut-être revenir, je vous laisse le temps d'y réfléchir, sur des exemplarités peut-être que vous connaissez de zones d'activité. Mais je vous laisse y réfléchir, oui, et prendre la question.
Bonjour, je me présente Yvonne Rabin-Jamina, porteur de projet. Je voulais demander une question à monsieur Valentin concernant le télétravail. Est-ce que du point de vue épanouissement personnel de la personne qui travaille chez soi, est-ce que c'est un travail épanouissant?
La question de l'isolement, finalement.
Sur la question de l'isolement. En fait, ce qui est préconisé aujourd'hui, c'est du télétravail partiel. Nous, les premiers locataires que nous avons eus, c'était justement des télétravailleurs à temps plein, ça existe, hein, et qui justement étaient isolés et passaient leur temps entre la salle à manger où ils avaient installé leur bureau et le frigo où ils étaient tentés d'aller grignoter deux, trois petits trucs. C'est très compliqué de travailler à la maison. C'est sûr qu'on se dit que c'est l'idéal, c'est facile à mettre en place. Et il ne faut pas se leurrer, la mise en place du télétravail aujourd'hui est essentiellement télétravail à domicile. Pendant 3 ans, pour vous donner un exemple, c'est un échec. On parle effectivement, on est là pour parler des succès, des satisfactions. On est là un peu aussi pour développer un peu de notoriété. Mais mon échec, c'est avec Airbus, où pendant 3 ans, j'ai rédigé les tracts de la CGT, la CFDT, pour faire en sorte que le télétravail se développe chez Airbus, alors qu'il était développé chez Airbus Allemagne et Airbus Angleterre. Des rendez-vous passionnants avec le directeur des relations sociales, M. Villanti, sur l'extension de l'accord cadre télétravail qui, jusqu'en 2016, était destiné à 50 salariés. À l'échelle d'Airbus, c'était du foutage de gueule. Et ils avaient fait effectivement, malgré tout, une analyse de ce qui s'était passé au niveau de ces 50 salariés pour se rendre compte que tout était positif. Baisse de l'absentéisme, augmentation de la productivité... Enfin bref, que du bonheur. Et le seul bémol, c'était le télétravail à domicile. Le seul bémol. Pourquoi ? Parce que les managers étaient suspicieux, d'autant plus quand les demandes de télétravail étaient le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc ils ne sont pas forcément les meilleurs jours pour créer de la confiance entre allonger le week-end ou anticiper le week-end et s'occuper des gamins le mercredi. Et là, Airbus vient de signer son nouvel accord cadre de télétravail. Ils sont passés de 50 à 100. Youpi, on a doublé. Exclusivement à domicile. Et là, ça a été une douche froide. Alors, pourquoi ? Parce que déjà, c'est beaucoup moins cher. L'indemnité télétravailleur, c'est 35 euros par mois pour permettre à un salarié de rester à la maison 2 jours par semaine. Avec 35 euros par mois, on ne fait pas grand-chose en termes de gestion dans un tiers-lieu. On paye à peine le café. Donc, c'est clair que ce n'est pas compatible. Non, un peu plus quand même que le café. Les croissants. Mais surtout, c'est contraignant parce que quand vous mettez en place du télétravail à domicile, vous êtes obligé normalement de faire passer la commission hygiène et sécurité pour vous assurer que le domicile est en conformité par rapport aux règles de sécurité, ce qui n'est jamais fait. Hein. Ne nous leurrons pas. Le télétravail est aujourd'hui principalement du télétravail gris, donc c'est pour ça que les statistiques nous amènent toujours à bien en dessous de tout ce qui se fait dans les pays scandinaves, notamment ou sur les pays du Benelux, parce qu'aujourd'hui, on est des indisciplinés et le télétravail n'est pas officialisé. Mais pour répondre à votre question, il faut dissocier vie privée, vie professionnelle. Beaucoup de lois aujourd'hui sur la déconnexion du numérique, le droit à la déconnexion numérique, où beaucoup d'entreprises ferment les serveurs après 18h30, 19h pour éviter le burn-out d'un certain nombre de collaborateurs. Mais ce burn-out, il existe si vous êtes effectivement à domicile. Ce qui est valable dans un sens est valable dans l'autre. Hein. La tentation de faire autre chose, c'est aussi la tentation de travailler au-delà. Et quand vous voyez votre dossier qui traîne dans le salon et que vous êtes à la maison, vous êtes en train de penser à votre travail, vous n'êtes pas en train de penser à votre famille et à votre bien-être.
D'autres réactions et peut-être les deux éclairages que je vous sollicitais, peut-être sur les communautés de communes, puisque voilà, on aura de grosses communautés de communes, mais il y a d'autres questions.
C'est juste pour ajouter le manque de lien social et le manque de collaboration quand même pour avoir travaillé à la maison, et à un moment donné, on tourne en boucle en fait.
On tourne en boucle et vous avez raison. Effectivement, ne serait-ce que dire bonjour à quelqu'un le matin pendant la pause café. Nous, dans les tiers-lieux relais d'entreprise, quand j'évoque effectivement qu'il n'y a pas de coworking, c'est parce que effectivement, dans les territoires ruraux, il n'y a pas suffisamment de densité de professionnels d'un même secteur d'activité pour à un moment ou à un autre créer une dynamique de co-création dans un domaine précis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas sur un territoire beaucoup plus vaste le potentiel pour effectivement faire en sorte que ces entrepreneurs se rencontrent quand ils sont effectivement dans le même secteur. Il faut savoir quand même que la zone d'influence d'un tiers-lieu est très courte. Nous, on l'a pu le démontrer, je pense que c'est pareil pour toi, c'est que c'est 15 minutes. Nous, au-delà de 15 minutes, on a des locataires qui ont arrêté de venir parce que ça faisait trop loin. Donc il faut effectivement des petits espaces de proximité pour favoriser effectivement l'alternative au télétravail à domicile. Un petit coin café pour faire en sorte que les gens se disent bonjour le matin. Et puis voilà, ça suffit. Hein.
communauté de communes.
Alors, oui, ça, c'est une vraie question sur les... Il revient avec sa question. Hein.
J'y tiens.
Il est tenace. Alors, nous, on est au cœur de ces sujets-là, puisque nos interlocuteurs aujourd'hui sont les gros intercos ou les pays, hein, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux. Il faut savoir que, de toute façon, que les habitants, ils n'en ont absolument rien à faire des communautés de communes ou des pôles d'équilibre territoriaux et ruraux. Ils raisonnent bassin de vie. Donc, poser la question à un habitant de quelle communauté de communes il fait partie, souvent, ça a changé de nom, ça fusionne. Lui, il se dit, ben voilà, moi, je suis entre... Bah, la barrière de péage de là et la barrière de péage de là, entre telle ville et telle ville. Après, c'est le bon sens de la facilité de l'accès aux routes que, effectivement, le bassin de vie va se constituer. Ceci dit, c'est clair que l'échelle, la nouvelle échelle avec la loi NOTRe, amène des moyens, amène l'accès à des financements qui va rendre possible, alors j'espère, non pas l'émergence de ce que j'appelle des totems politiques, des bazars de plusieurs millions d'euros qui sont effectivement financés, subventionnés, sans pour autant se soucier de l'exploitation et la rentabilité de l'exploitation. Mais on est effectivement aujourd'hui dans une telle préoccupation des intercos de savoir qui va absorber qui va prendre la présidence de quoi, qu'il n'y a plus grand-chose qui se passe quand même sur les territoires en ce moment. Hein.
Une question, je crois, à ce sujet.
Alors, pas exactement ce sujet, donc toujours Florent Blain, toujours animateur culturel. J'aurais voulu savoir, vous avez beaucoup parlé de tiers-lieux et de télétravail. Je voulais savoir où en était la réflexion, plutôt dans l'acceptation tiers-lieux imprimante 3D. La vision un peu traditionnelle que j'ai, moi, du tiers-lieu. Et puis, puisque j'évoque l'imprimante 3D, je voulais savoir aussi, ma question va aussi aux zones d'activité, savoir ce qui a été fait en termes de partage de l'outil industriel, ce qu'on pourrait considérer comme un tiers-lieu.
Je n'ai pas compris votre question sur les imprimantes 3D, en fait.
Je voulais savoir où en était la dynamique tiers-lieu vis-à-vis de l'acceptation, parce que vous avez parlé beaucoup de la dynamique du télétravail et moins de la vision traditionnelle que j'ai du tiers-lieu.
Oui, 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 tout à fait. Ben oui, en fait, on est toujours sur des problèmes de terminologie, c'est-à-dire que pour nous, tiers-lieu, enfin, il y a plein d'articles qui disent le tiers-lieu, c'est du coworking, du centre d'affaires, du télécentre. Pour moi, tiers-lieu, c'est... du coworking, du Fab Lab et des espaces qui naissent grâce aux gens, aux habitants, aux entrepreneurs. Donc, effectivement, on n'a pas forcément la même définition tous les deux, mais quelque part, on travaille sur des objectifs un peu communs de faire comprendre qu'il y a des alternatives au travail, que ce soit de la production, de la création, voilà, tous ces aspects-là qui sont liés à l'activité en général. Enfin, d'ailleurs, nous, on parle de travailler encore, mais on réfléchit aussi beaucoup à tout ce qui est le futur du travail, finalement. Est-ce que, enfin, y a beaucoup de questions en ce moment sur le plein emploi, le salariat, l'entrepreneuriat. Voilà, donc, on est assez sensible au-delà du simple outil lieu de travail sur finalement qu'est-ce qu'on fait de notre temps, comment on agit, comment on est actif, comment on est en mouvement sur son territoire et avec qui et pourquoi.
Je peux peut-être la question, et puis après il y a une question ici, mais sur les zones d'activité, comment est-ce qu'on mutualise plutôt que de créer peut-être un autre lieu?
Vous n'oubliez jamais les questions, hein, vous êtes tenace. Hein.
Je sais.
Alors, je vais simplement vous donner quelques exemples qui, pour moi, démontrent peut-être aussi l'impact d'une zone d'activité ou d'un positionnement d'une zone d'activité réussie. Quand on regarde, effectivement, alors je n'ai pas la prétention de parler pour l'ensemble des zones d'activité sur l'ensemble du territoire français. On assure la promotion modestement au niveau de notre société de 250 zones d'activité. Donc je n'ai pas du tout la prétention de parler sur la totalité des zones d'activité. Par contre, ce que l'on constate sur ces 250 zones, c'est que les zones qui fonctionnent bien sont les zones où, effectivement, on a une sectorisation de la zone. Donc en particulier sur l'industrie chimique, sur l'aéronautique, sur différents secteurs industriels, différents secteurs d'activité qui permettent une mutualisation de moyens, c'est le deuxième point qui me paraît important, c'est la mutualisation de moyens qui peuvent être des moyens techniques, ça peut être effectivement des imprimantes 3D, ça peut être la mutualisation au travers d'un centre de recherche spécifique sur une activité industrielle donnée, d'accord ? Je suis implanté sur une zone d'activité dans le nord de la France, dans la Somme, dédiée à l'aéronautique. Je sais que j'ai la possibilité de faire travailler un centre de recherche sur les matériaux à proximité immédiate de ma zone d'activité à 1 km ou 2 km. Le fait de créer cette mutualisation, le fait de créer cette sectorisation dans un premier temps, puis cette mutualisation au niveau de l'accès à un certain nombre de ressources industrielles, techniques, formations, etc., permet de créer un écosystème vertueux et favorable. Donc en fait, il y a deux éléments qui viennent se renforcer l'un l'autre, la spécialisation, la sectorisation, et puis l'accès à un certain nombre d'externalités, entre guillemets, de mutualisation de moyens qui permettent justement de créer plus de valeur au niveau d'une zone d'activité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Et juste pour apporter un complément, au-delà de la mutualisation, ce qui se fait de plus en plus dans les zones d'activité, c'est le principe de l'économie circulaire. C'est que les déchets des uns deviennent la matière première des autres. Et il y a beaucoup de vidéos qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux, sur le fait effectivement que la nature, depuis très très longtemps, a tout recyclé, et que l'industrie ou les activités humaines devraient en prendre effectivement le même chemin. Et ça y est, aujourd'hui, il y a des outils qui existent, il y a des réflexes qui s'opèrent, que des zones industrielles aujourd'hui trouvent une valorisation intéressante par un écosystème qui s'auto-alimente et qui évite justement les transports de déchets à l'autre bout de la planète, alors qu'ils pourraient être utilisés comme carburant, comme effectivement matière première pour d'autres.
Oui, bah du coup, je suis un peu hors sujet. C'était pour rebondir sur ce que disait Lucille. Mais moi, dans le tiers-lieu, on parle beaucoup de travail, mais je vois aussi deux, trois autres choses. Parce que le tiers-lieu, on dit c'est entre le domicile et le travail. Bon, je trouve que c'est un peu une définition qui commence à être un peu galvaudée. Mais le tiers-lieu, il y a la partie travail, il y a la partie apprentissage. Et c'est pour rebondir ce que tu disais, c'est aussi d'apprendre à utiliser, d'apprendre à réparer son machin. C'est aussi de l'apprentissage. Et aussi une partie épanouissement personnel. Qui est, voilà. Donc pour moi, le tiers-lieu, c'était pour rebondir sur ton truc. Et juste, je voulais juste dire un truc par rapport à tout à l'heure pour l'attractivité. Je crois que, de toute façon, on peut dire ce qu'on veut. Pour attirer des jeunes, où je travaille plus dans la jeunesse, il faut qu'il y ait une offre culturelle. Enfin, une commune qui ne propose pas une offre culturelle n'aura jamais de jeunes dans sa commune.
Bien. D'autres questions sur ces trois interventions? Sinon, à moins que vous vouliez rajouter autre chose, Lucille, non? Messieurs, Suissa, Valentin. Bon, ben merci en tous les cas. Et puis donc j'appelle Monsieur Rambaud et Rambourg, pardon, Madame Rambourg, pardon, et la conciergerie, voilà, je vais le dire sous cet angle-là, comme ça sera plus simple. Et je vous laisserai vous présenter d'ailleurs tous les deux. Et ensuite, on continuera dans l'ordre.
Bien, bonjour à tous. Donc moi, je suis Henri Laveau de Châtellerault et on est là pour vous présenter un projet qui est en train d'arriver à son terme, à savoir une conciergerie pour les entreprises. Alors, pour nous, c'est un vrai défi puisque c'est ce type de conciergerie, en général, existe dans des grandes métropoles, mais pas dans des territoires ruraux comme chez nous, donc le Châtellerault, tout le bassin Châtellerault. Voilà, on s'est rencontrés avec Sandrine à l'Asiascope de Châtellerault, et je vais la laisser aussi se présenter et continuer.
Donc, bonjour à tous, donc Sandrine Rambourg. Donc, moi, j'habite sur le bassin Châtellerault et j'y ai travaillé pendant une quinzaine d'années. J'ai géré une structure dans le domaine de l'environnement. Donc, en effet, après, quand Henri m'a parlé de son idée de conciergerie, je vous avoue qu'il y a 10 mois, je ne savais pas ce qu'était une conciergerie. Ça m'a interpellée et ça m'a plu. Et donc, on a décidé de travailler ensemble sur ce projet. Donc voilà, 9 mois de travail, de réflexion, c'est pas anodin, 9 mois, c'est beaucoup de travail, de réflexion, et voilà, ça y est, le projet né. On a commencé concrètement il y a quelques semaines en direction des clients que je vais vous présenter après. Alors c'est quoi une conciergerie et c'est quoi la conciergerie du pays Châtellerault? Donc c'est deux concierges, Henri et moi, et on apporte donc des services directement dans l'entreprise pour faciliter la vie de chacun au travail. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail après. Et la conciergerie, on va aussi l'adresser aux habitants du pays Châtel-Rodet, mais ce ne sera pas notre cible principale. C'est quand même très chronophage d'aller chez les habitants directement, pas toujours très cohérent en termes de déplacement. Et nous, on a envie de l'être. Donc là, on va surtout vous présenter le côté conciergerie pour les entreprises. On débute et on est soutenu dès le début par pas mal de personnes parce qu'on est aussi allé questionner des gens qui travaillent sur le territoire. On a questionné d'autres conciergeries en France et aujourd'hui, on est soutenu par la région, par la communauté d'agglos du pays Châtel-Rodet qui est intéressée par le projet, par notre députée Madame Massonneau, et puis par toutes les personnes partenaires qu'on a pu rencontrer au fur et à mesure, et également par la CASCOP, la coopérative d'activité dans laquelle on est entré en avril de cette année. Voilà. Et où on espère à un moment devenir entrepreneur salarié, puisque ce sera bon signe, ça voudra dire qu'on aura généré du chiffre d'affaires. Alors, cette conciergerie, elle s'adresse, et on l'a conçue spécialement pour les entreprises du bassin Châtel-Rodet. Elle n'est pas identique à celle de Marseille qu'on a questionnée ou à celle de Bordeaux qu'on a visitée. Elle est spécialement conçue pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif et quelle que soit leur activité. Et au sein même de l'entreprise, elle peut s'adresser à tout le monde. Elle s'adresse aux chefs d'entreprise, à ses proches collaborateurs, à tous les employés et également à la structure elle-même. Et c'est un principe pour l'entreprise d'abonnement. S'abonne à la conciergerie selon son effectif. Alors pour être très concrète, il faut qu'on vous donne des exemples, parce que sinon, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, on s'est donné quatre grandes missions de service. Alors premièrement, on peut par exemple faire tout ce qui est dépôt-retrait. C'est-à-dire concrètement, on va aller dans l'entreprise, récupérer les affaires pour le pressing, la cordonnerie. Donc l'employé rapporte son linge à laver, à repasser, les chaussures à réparer, les clés à faire refaire. Nous les récupérons dans l'entreprise, les emmenons pour la réparation, le nettoyage, etc. Et lui rapportons dans un délai tout à fait raisonnable. Et tout ça, ça ne lui coûte pas plus cher que s'il le faisait lui-même, puisque l'entreprise s'abonne et c'est elle qui contribue à ce système-là. Et en plus, on travaille avec des partenaires locaux. Donc, on a trouvé que des partenaires du Châtel-Rodet, si possible indépendants. On n'a aucune chaîne. Non, voilà, ils sont tous indépendants. Et on dit, c'est pas nos fournisseurs. Enfin, en compta, ce sera nos fournisseurs, mais c'est vraiment des partenaires. C'est-à-dire, avec eux, on a vraiment développé cette envie-là. On leur amène des nouveaux clients, donc c'est intéressant pour eux. Mais on essaye vraiment de développer un travail de partenariat. On pourra vous donner quelques exemples éventuellement. La deuxième chose qu'on peut faire, on veut aussi livrer directement dans l'entreprise. Donc on ne monte pas une entreprise de livraison, il y en a déjà pas mal. On veut livrer des choses qui nous tiennent à cœur, tout ce qui est produits locaux. Parce que le produit local, aujourd'hui, on peut aller le chercher à la ferme, on peut aller chercher son panier de la MAP, on peut la réserver sur une plateforme internet comme il en existe, mais il n'arrive pas jusque la maison ou jusque dans l'entreprise. Et quand on est un peu flemmard, ça peut être un avantage. Donc on est en train de développer un partenariat qui est, par exemple, le jeudi soir, vous ne savez pas quoi manger. Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire ce soir? Donc, une fois par semaine, on vous livre un panier avec dedans les ingrédients et les fiches recettes conçues par une diététicienne pour un repas du soir à 2 ou à 4. Et vous avez juste à cuisiner, plus à y penser. Ou par exemple, livrer aussi les courses que vous avez pu vous-même commander dans un certain nombre de magasins sur Châtellerault. Ou livrer des repas tout prêts cuisinés par une agricultrice fermière du Châtel-Rodet avec des produits locaux et bio. Et donc, pareil, là c'est déjà cuisiné, il n'y a plus qu'à réchauffer. La troisième chose, c'est on peut prendre des rendez-vous et trouver des solutions pour la garde d'un enfant. On prend parfois une demi-journée pour passer plusieurs coups de fil, trouver la structure qui va s'occuper de tout ça. Nous, on peut s'en occuper, vous mettre en relation. Mais également tout ce qui est voiture, quand on en a, ou vélo, et trouver une solution pour réparer votre voiture. On a un garagiste mobile qui peut venir sur le parking directement de l'entreprise. Vous arrivez le matin pour travailler, vous avez réservé votre créneau auprès de nous, et vos réparations sont faites, vous récupérez votre voiture le soir, et vous le payez le même prix qu'un garagiste, et voire un peu moins cher, puisqu'il est mobile, il a un peu moins de frais de structure. On a la même chose pour les lunettes, on a un opticien à domicile qui se déplace dans l'entreprise ou là, plus logiquement, directement le soir chez vous. Et la troisième chose, c'est on a travaillé sur tout un réseau d'artisans et de professionnels locaux parce que, par exemple, on a besoin de faire des travaux, à qui s'adresser, quel corps de métier, trouver quelqu'un de sérieux. On ouvre les pages jaunes, on ne sait pas à qui s'adresser. Donc là, voilà, Henri, étant un petit peu quand même dans ce secteur et touchant beaucoup à ce secteur-là depuis pas mal d'années, connaît beaucoup de monde. Donc là, voilà, on peut mettre à disposition nos relations. Mais ça peut être aussi dans le domaine de l'événementiel. Vous voulez faire une fête de famille, vous cherchez un lieu un peu sympa. Et les services, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc ça, c'est pour les employés, le chef d'entreprise, etc. Mais on en a aussi développé pour l'entreprise elle-même. Alors, on ne vient pas supplanter les fonctions qui existent déjà, on vient plutôt en appui, un cas d'un moment de surcharge. On a des partenaires avec qui on travaille sur de l'appui commercial, par exemple, donner un coup de boost pour faire du mailing, la prospection commerciale, pour aider à la préparation de portes ouvertes. Donc, cette personne peut venir en cas de surcharge, mais aussi donner l'idée à un moment donné au chef d'entreprise qui ne communique pas beaucoup, qui n'en a pas forcément les moyens en interne et qui n'a jamais pensé qu'il pouvait faire appel à quelqu'un à l'extérieur. Et ce qui nous tient beaucoup, beaucoup à cœur, mais Henri le développera tout à l'heure, avec les entreprises, on a vraiment envie de développer un réseau de mutualisation inter-entreprise. C'est un peu comme un système d'échange local, mais à l'échelle des entreprises. Mais Henri détaillera un petit peu tout à l'heure. Voilà, c'est de vous brosser un peu ce que c'est une conciergerie. Et Henri va vous présenter quel peut être l'intérêt pour une entreprise, l'argumentaire qu'on a essayé de développer pour défendre notre projet, sachant que là, on commence à tester nos services. Vis-à-vis des entreprises, on va commencer là en octobre notre prospection, mais qu'on commence avec ce projet de conciergerie avec des services, mais on a envie que ça devienne un peu autre chose. Tout ce qui est coworking, ça nous intéresse beaucoup. Et voilà, donc on espère que ça va devenir aussi quelque chose au centre du bassin Châtel-Rodet et qu'on puisse développer des partenariats et resserrer les liens entre entreprises.
Alors effectivement, c'est pas toujours évident d'en parler pour l'instant puisque ça n'a pas vraiment commencé au sein des entreprises. Donc on espère en tout cas apporter plusieurs solutions, notamment pour les entreprises, une solution RH innovante puisque une conciergerie pour les entreprises, ça reste récent et nouveau, même si le terme en lui-même est plutôt ancien, le terme de conciergerie. Une solution locale, comme disait Sandrine. Donc vraiment que des prestataires locaux et pour des entreprises locales. Donc ça, on y tient beaucoup. Une solution aussi pour l'entreprise externalisée. Elle n'a pas besoin de se préoccuper de tous ces problèmes-là. C'est un seul interlocuteur, à savoir nous. Et puis, bien évidemment, vous aurez compris que c'est une solution pour gagner du temps et de l'énergie, donc aussi bien pour les employés, mais que pour l'entreprise. Et nous nous occupons de toutes les contraintes, les démarches contraignantes, chronophages de toute la vie quotidienne, et qui peuvent aussi parfois prendre du temps dans l'entreprise. C'est une solution pour que chacun soit plus disponible et donc aussi plus efficace à son poste si on se met du côté de l'entreprise. C'est vrai que ça peut permettre aux gens d'être plus disponibles. Aussi pour l'entreprise, c'est un moyen de fidéliser leurs employés et de chacun ressentira un mieux-être autant personnel que professionnel en diminuant un petit peu le stress de toutes ces démarches que l'on peut avoir à faire. On y pense dans la journée, quand est-ce qu'on va le faire, on n'a pas le temps, on est là pour nous pour s'en occuper à leur place. Et puis, pour l'entreprise, c'est une solution pour développer son image, bien évidemment, son réseau. C'est là où on peut revenir sur ce côté de mutualisation, où donc ce que l'on souhaiterait faire au fur et à mesure de nos visites dans les entreprises, c'est d'essayer de créer une base de données pour recenser un peu toutes les ressources de chaque entreprise. Parce que chaque entreprise a des ressources qu'elle ne soupçonne même pas forcément et qui n'est pas toujours en adéquation avec même son activité. Ça peut être d'autres choses, ça peut être des savoir-faire à travers des salariés, à travers des machines, enfin tout un tas de choses, de les répertorier et de pouvoir les mettre à disposition à chaque entreprise de ce bassin, puisque on ne connaît pas toujours forcément son voisin non plus, et de pouvoir se faire travailler les uns les autres. Et tout ça en préservant sa trésorerie, puisque ça serait sous forme d'échanges qui a été, on a vu qu'il y avait un système d'échange qui était mis en place au niveau par le ministère qui souhaitait développer ce côté-là. Donc même comptablement, on peut l'appliquer très facilement. Donc en même temps, voilà, c'est développer du lien, mutualiser et travailler ensemble. C'est quelque chose qui nous, voilà, qu'on aimerait bien pouvoir développer. On est conscient que ça va être quelque chose qui va mettre du temps. Ça c'est sûr, et puis en espérant que les entreprises vont jouer le jeu, mais voilà, ça c'est quelque chose sur lequel on tient beaucoup. Et puis en même temps, on pense leur donner une meilleure visibilité à toutes ces entreprises grâce à tous les prestataires que l'on va utiliser et tout ce réseau. Voilà ce que je peux vous dire sur ces solutions. Je te laisse continuer.
Donc, juste vous expliquer un petit peu donc le fonctionnement concret, rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc, le principe avec l'entreprise, c'est comme je disais tout à l'heure, l'entreprise va s'abonner à la conciergerie. C'est un engagement de sa part. Elle va nous payer un abonnement tous les mois en fonction de l'effectif de son entreprise. Donc voilà, pour elle, c'est vraiment pour ça on dit une solution RH, quoi. C'est vraiment un engagement de sa part. Et une fois qu'elle s'abonne à la conciergerie, tout le monde, tous les membres de l'entreprise qui sont salariés, ont un accès illimité à tous les services. Voilà, de façon vraiment illimitée. Et après, ils peuvent en plus nous contacter de différentes façons, bien sûr par téléphone, internet, etc. Mais aussi lors de nos passages dans l'entreprise, parce que ça, on s'engage en termes de présence, de passer régulièrement dans l'entreprise, bah déjà parce qu'on a des choses à récupérer si on fait du dépôt-retrait, bien évidemment, mais aussi parce qu'on privilégie le contact humain. C'est un choix. Nous n'avons pas monté une plateforme de réservation sur internet. Nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux. Nous avons fait de la com papier. Alors, voilà, il y en a qui trouvent ça ringard. Mais on est sur un projet innovant avec un fonctionnement, pas ringard, on va dire authentique. C'est le terme qu'on utilisait ce midi à table. Voilà. Donc, on a vraiment envie de garder cette proximité et que les gens ne tombent pas sur un 0800 d'une plateforme pour réserver, mais qui nous est au bout du fil, qui nous connaissent, et qu'on passe régulièrement dans leur entreprise pour leur parler, pour leur expliquer comment ça fonctionne, parce qu'il y a tous les services qu'on propose, mais ils peuvent avoir plein d'autres demandes. Voilà. Donc l'autre engagement aussi, c'est que s'ils ont une demande, on a toujours aussi une réponse à leur fournir, qu'elle soit positive ou négative. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, l'avantage pour l'utilisateur quand il est dans une entreprise, c'est qu'il le paye le service au même prix que s'il le faisait lui-même, il n'y a pas de surcoût. Ça, c'est quand même super avantageux. Et vis-à-vis de l'entreprise, tous les ans, on lui fournit aussi un bilan pour présenter l'utilisation de la conciergerie, parce que le chef d'entreprise, il va quand même financer ce service, il veut bien savoir si ça fonctionne. Donc on, voilà, lui fournira un bilan sur l'utilisation. Et voilà, sur les engagements, sur le fonctionnement, j'en ai fait le tour. Je repasse la parole à Henri.
Oui, je vais rajouter certaines choses, mais qui ne sont pas, peut-être pas très intéressantes pour vous, je ne sais pas, mais c'est pour montrer aussi le travail que l'on a fait en amont au niveau financier, où on apporte des arguments financiers pour les entreprises, comme le fait qu'ils bénéficient d'un crédit d'impôt de 25% pour les abonnements, par exemple, d'une déduction fiscale. On propose 10% de réduction, par exemple, pour un paiement annuel plutôt qu'un paiement mensuel. Enfin, plein de choses. C'est gratuit pour tous les employés aussi qui sont à mi-temps ou moins, parce que c'est vrai que pour une entreprise qui possède beaucoup de mi-temps, pour eux, c'est plus difficile de s'abonner, puis ils ont plus de temps, donc ils l'utiliseront moins. Une offre aussi découverte de 3 mois sans engagement pour les entreprises, parce qu'après, comme disait Sandrine, c'est un engagement sur 1 an. Et également la possibilité de partager cet abonnement avec leur CE, voilà, s'il y en a, pour les grosses. Voilà ce qu'on peut dire sur... sur tout ça. Qu'est-ce que tu veux rajouter, quelque chose ?
J'oubliais tout à l'heure sur le soutien. On a eu la chance, fin août, d'avoir un article sur l'ANR. C'est même pas nous qui... On avait l'intention de les appeler, ils nous ont appelés avant. Et donc on a eu voilà, 3/4 de page sur l'ANR, les rédacteurs de Châtellerault qui nous a appelés. Et l'article est en plus on a eu de la chance, plutôt fidèles à ce qu'on monte. Donc ça, c'est quand même une chance. C'est pas toujours le cas. Et l'autre chose aussi, donc on n'est pas sur les réseaux sociaux. Par contre, comme tout début d'entreprise, on n'a pas notre propre entreprise, mais comme tout début d'activité, on a besoin d'un coup de pouce. Donc on s'est mis sur, je ne vous sollicite pas aujourd'hui, c'est juste une petite info, on s'est mis sur une plateforme de financement participatif qui est à l'échelle régionale, j'adopteunprojet.com, parce qu'on doit s'acheter un véhicule, bien sûr, pour aller à la rencontre et livrer. Donc voilà, il y a même un flash code pour ceux qui souhaitent. Et du coup, vous avez toute la présentation du projet. S'il y en a qui sont intéressés, on en a plusieurs des petits tracts. Voilà, on en a fini.
Merci de cette présentation. Alors peut-être des questions, des remarques, des précisions. Pardon.
Tout à l'heure, vous avez dit que vous allez donc visiter régulièrement les entreprises. Et de point de vue sur le côté horaire de travail des gens, à quel moment souhaitez-vous donc voir le personnel pour la livraison, pour prendre leurs commandes? Est-ce que ça n'aurait pas un impact sur leur travail?
Donc nous, on a prévu de passer les voir en journée, bien évidemment. Après, il peut y avoir des entreprises qui sont sur les 3-8. Je vous avoue que pour l'instant, on n'a pas envisagé, nous, de travailler la nuit. Par contre, en effet, il y a la question du temps de travail. Alors, nous avons testé notre argumentaire et notre présentation auprès de quelques entreprises sur le bassin Châtel-Rodet. Il n'y a eu aucune réticence sur l'idée de venir à une réunion pour présenter la conciergerie, de venir sur un temps de midi 2, de revenir sur une réunion d'équipe, de solliciter le CE pour le présenter pour qu'il puisse se faire le relais. Ça a été une question qu'on s'est posée au démarrage en disant, mais ils vont nous dire, attendez, vous êtes gentils, mais moi, le salarié, il va partir de son poste 5-10 minutes pour aller chercher ses affaires ou venir vous voir. Alors, il y a plusieurs choses. C'est que ça n'a pas l'air d'être un frein. Et la deuxième chose, c'est qu'on propose à l'entreprise de nous mettre à dispo un local qui nous permet d'avoir de l'autonomie. Donc, les gens déposent dans le local leurs affaires. On a tout un système de petits tickets, etc., avec un numéro de client. Et on le récupère et on lui redépose. Et on le prévient qu'on a redéposé si on n'a pas possibilité de le voir. Donc, même s'il n'est pas là, il peut déposer le mardi. Si nous, on passe le jeudi et qu'il ne travaille pas, on peut récupérer ses affaires ou il nous laisse un mot pour une demande particulière ou un SMS. Et puis, la conciergerie, elle est financée par l'entreprise, vous avez bien compris, pour des services qui sont très personnel, ça c'est sûr. Le linge, ça ne regarde pas le chef d'entreprise. Sauf que ça lui libère l'esprit. Enfin voilà, comme dit Henri, on est tous occupés à penser, à devoir prendre une demi-journée parfois, le matin arriver plus tard pour déposer la voiture. Donc finalement, je pense qu'ils sont prêts, les dirigeants, à se dire que voilà, de toute façon, les employés, ils ont toujours dans une journée, à part celui qui est derrière une machine qui peut pas s'arrêter. Mais sinon, il y en a quand même beaucoup qui ont des petits temps de pause de café, etc. Et on est aussi convaincus que les employés prendront le jeu de aussi faire ça éventuellement le soir, parce qu'un CMS, on le reçoit le soir. J'ai répondu à votre question.
D'autres réactions, d'autres remarques? Écoutez, vous restez pour l'instant, parce que vous êtes de Châtellerault, et comme Franck, il n'a peut-être pas parlé que de Châtellerault, mais il a fait une petite visite avec un chef d'entreprise sur la zone industrielle de Châtellerault Nord. Donc je pense qu'il veut réagir sur cette visite. Mais au-delà de ça, il se présentera aussi puisqu'il fait partie d'un collectif qui s'appelle Chemin de Transverse.
Oui, donc bonjour, Franck Buffeteau, architecte urbaniste, je suis aussi metteur en scène et la structure que j'ai montée s'appelle Entrelieux. Et c'est pas pour rien si on l'appelait comme ça, c'est toujours être entre quelque chose. Et la structure aujourd'hui est entre plein de choses, c'est-à-dire que mon poste de travail Et l'endroit où j'habite, il y a 5 cm qui séparent mon lieu de travail avec l'endroit où j'habite. Donc ça, c'est... J'ai bien réagi par rapport à ce qui était dit entre les uns et les autres. Et justement, dans la manière de travailler, pour compenser ces 5 cm, on a mis en place un collectif qui s'appelle le chemin transverse, dont le nom il vient vraiment ça, sur le fait d'avoir une vraie transversalité avec des gens qui sont dans la même philosophie, qui sont à la fois architectes, sociologues, qui sont aussi facilitateurs aussi de programmes, designers, paysagistes, parce qu'on est un peu orienté sur la réflexion sur le territoire, et en particulier sur l'humain, c'est ce qui nous touche beaucoup. Donc, Jackie m'avait demandé de venir faire un tour chez Jean-Marc Neveu, l'entreprise. Alors, ce n'est pas l'image qui est ici. Hein. L'image qui est ici, on a appelé la zone d'activité un espace du quotidien. Je vous propose de regarder comme ça, tantôt, il y a quelques diapositives, mais on passera très vite. Et donc, c'était ça aussi, de porter un regard sur les zones d'activité, en particulier celles qui se trouvent au nord de Châtellerault, et d'avoir, on me demande d'être critique. Alors, je vais être critique, et je vais être modéré peut-être. Enfin, ça sera l'occasion de pouvoir échanger ensemble. Donc, le chemin, j'ai parlé de qui on était. Le chemin de transverse, c'est pas anodin, cette photographie sur la manière de la transversalité. C'est que pour aujourd'hui se redire, il faut reporter son regard un petit peu autrement sur tous les espaces qu'on côtoie. Et je pense que c'est de remettre une échelle humaine sur tout ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de se transporter très rapidement d'un point à un autre, que ce soit par la voiture, par les réseaux, etc. Et qu'il faut peut-être qu'on se remette à la dimension de nos statures de bipèdes pour voir exactement ce qui se passe. Et donc, le chemin de transverse, c'est ça. Vous pourrez, collectif du chemin de transverse, allez cliquer dessus, faites le collectif chemin de transverse, je regarderai qui on est là-dessus. Et les zones d'activité, finalement, je me suis dit, c'est aussi le cheminement de l'ordinaire et du quotidien. C'est-à-dire, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'aller sur son lieu de travail, et entre son lieu de travail et son lieu où on habite. Et il y a un moyen qu'on utilise beaucoup, sauf quand on est dans les grandes métropoles, mais ici, même si on est sur des villes assez importantes, c'est quand même la voiture qui est l'élément qui nous transporte. Et je dis qui nous transporte, c'est-à-dire qu'on met un sas très fermé et très hermétique entre l'endroit où on vit et l'endroit où on se déplace. Et finalement, je me dis que la voiture, que dans ces conditions-là, ce sont mes 5 cm sur lesquels je travaille tous les jours, et qui est un vrai problème parce qu'on n'a pas de zone de frottement pour arriver sur des lieux qui sont tous les mêmes, insipides, on va dire, enfin pas forcément insipides, mais qui sont presque tous communs. C'est-à-dire que cette image-là, je suis incapable de vous dire où elle est, parce qu'elle pourrait être dans toutes les zones d'activité de France et de Navarre. C'est-à-dire que le contact par rapport au territoire, à la géographie et à la spécificité, il n'existe pas. Donc là, on m'a demandé des critiques, hein, je regarde là-dessus. Donc la question autour de l'urbanisme des zones d'activité... Finalement, j'attaque personne, hein, je le dis là-dessus. Finalement, les zones d'activité sont bâties pour être attractives, mais non pas par rapport à ceux qui travaillent dessus, mais par rapport à ceux qui pourraient utiliser ou marchander quelque chose. Et là, cette image est assez symptomatique, c'est-à-dire qu'on vient parachuter souvent, pas tous les endroits, mais on vient souvent parachuter des zones d'activité, souvent en frange des villes, parce qu'on s'est dit comme ça, s'il y a des nuisances, on se débrouillerait que ça soit le plus loin possible et que ça ne perturbe pas, que ça ne gêne personne là-dessus. Alors, traditionnellement, on faisait aussi ça. À un moment ou à un autre, il y avait, en fonction, c'était par rapport au lieu d'exploitation, on a des grands secteurs qui se sont développés, mais souvent étaient quand même en frange des parties urbanisées, avec tout, parfois les conflits qu'il y avait aussi, c'est pas là. Alors, c'est de l'attractivité du site et de l'usage au quotidien. C'est-à-dire que celui qui l'utilise aujourd'hui, que ce soit le chef d'entreprise ou celui qui travaille. Et on peut même les zones d'activité commerciale aussi. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, mes zones d'activité commerciale, on a surtout l'usager qui va consommer. Sauf que derrière notre consommation, il y a des gens aussi qui travaillent et qui sont là 8 heures ou 10 heures par jour là-dessus. C'est peut-être à eux qu'on ne pense pas beaucoup quand on travaille sur les zones d'activité commerciale. Alors je dirais, on passe, mais c'est pas moi, c'est l'INSEE, c'est les sources INSEE, les dernières sources INSEE, on passe 12 heures par jour à dormir, manger, se préparer, 7 à 8 heures par jour à travailler, et il reste 4 heures par jour de temps libre à occuper. Alors qu'est-ce qu'on en fait, ces temps libres? Ça, c'est à certains fonctions des endroits, on est beaucoup dans la voiture, parfois on essaye bon an mal an de l'occuper comme on peut, je dis bien comme on peut, on se dit tiens, je vais peut-être faire du sport, puis on va essayer de mettre le sport le plus près possible de l'endroit où on travaille, etc., etc. C'est-à-dire qu'on essaye à chaque fois de répondre. Alors, je fais un petit tour en arrière, c'est pourquoi on est arrivé à cette situation-là. Donc on est passé du phalanstère, qui était une vraie composition quand même, le phalanstère, quand on regarde là-dessus, même on se dit, même s'il y avait un patron, qu'il y a un moment un autre, c'est d'avoir une espèce d'emprise aussi là-dessus. Mine de rien, dans le phalanstère, quand vous regardez, il y a un espace public, un espace privé et des espaces intermédiaires. La place publique, même si à un moment on mettait la statue du créateur du phalanstère, néanmoins les premières coopératives, elles commencent à arriver sur les phalanstères et les familistères, il faut le savoir aussi. C'est-à-dire que là où on commence à faire ensemble, il y avait des espaces où on partage. Donc on est passé du phalanstère à l'image du campus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le campus, même pour les zones d'activité, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose de très verdoyant, c'est la ville très verte, et on va venir mettre dessus des boîtes sur lesquelles on va venir travailler. On se dit c'est super, on va créer un cadre extraordinaire autour de ça. Volontairement, je suis acerbe là-dessus, mais pour en avoir fait aussi des zones d'activité, on est ça. On se dit on va mettre du vert, et puis finalement ça va nous donner un joli enrobage sur l'affaire. Parce qu'on est passé avant par un empilement. C'est-à-dire que les zones d'activité telles qu'on les connaît aujourd'hui, ben c'est ça. C'est-à-dire que le vert, vous en voyez, mais c'est sur le pourtour. Là, c'est Châtellerault, par exemple, vous avez en partie ouest, c'est la Vienne qui passe. Oui, c'est ça, c'est la Vienne qui passe à côté. Et vous avez cet empilement horizontal qui est organisé. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'urbanisme construit par rapport à ça, et c'est une poche qui s'est développée sur cette manière-là. Ça, c'est les années, ça a commencé sur les années 70-80 sur ces éléments-là. Donc on qualifie, et aujourd'hui par rapport à la question qui est posée sur les zones d'activité, on qualifie les abords des tuyaux. C'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup d'argent sur les abords pour que les entrées de ville notamment elles soient belles, pour qu'à un moment ou à un autre des interfaces autour des zones d'activité soient belles, etc. Mais quand vous regardez l'image là-dessus, pareil, qui pourrait être à Châtellerault ou ailleurs, vous apercevez que l'intérieur, lui, il est resté commun. C'est-à-dire qu'on a mis une jolie ceinture autour de l'ensemble. Et on crée des micro-villes en marge de la ville. Alors ça, c'est Niort. Alors vous avez tout sur celle-ci. C'est-à-dire, vous pouvez aller faire vos courses, vous pouvez travailler, vous pouvez aller même au niveau culturel, etc., etc. Et vous voyez que vous avez vraiment une ceinture verte qui ceinture vraiment cette partie-là. C'est-à-dire qu'on a fait une micro-ville, mis à part l'habitat, une micro-ville en dehors de la ville elle-même qu'on va relier par des tuyaux et par la voiture. Vous allez me dire, ça, on le savait, etc. Et quand on rentre à l'intérieur, finalement, on distribue des casiers. C'est-à-dire qu'on n'est pas le fait d'avoir une connexion entre les éléments, on distribue des casiers. Alors celle-ci, c'est la zone d'activité nord. On le voit bien, en plus, au niveau aspect, si vous voulez vous promener à pied ici, vous sentez bien que c'est... Enfin, voilà, quoi. Il se passe quelque chose. Et je pose la question, et l'usager dans tout cela. C'est-à-dire que qui l'usager dans les villes, dans les grandes villes, marche, se rencontre, se frotte, etc. Comment ça se passe dans les zones d'activité? C'est pour ça que je mets vraiment cette analogie. La notion de la friction et de la rencontre me paraît importante, et particulièrement la notion de la... Alors on distribue le travail, ça, il n'y a pas de souci. On favorise les achats, voire même on recrée, voilà ici, c'est à partir de là, on recrée une grande place où on va voir les commerces sur tout le pourtour. Seulement, cette grande place, c'est uniquement pour la voiture. C'est-à-dire, comment vous vous rencontrez pour discuter à l'intérieur de ça? Généralement, les gens qui se rencontrent, c'est à l'intérieur de la galerie commerçante que les choses se passent. Et maintenant, de plus en plus, on invite au loisir à la fréquentation d'équipements sportifs ou culturels. Pardon, culturel, il y a une faute d'orthographe. Là. Donc là, aujourd'hui, par exemple, ici, comme à Bressuire, on crée un cinéma en cœur de la zone, on crée un bowling, c'est-à-dire qu'on arrive avec sa voiture juste devant, on sort, l'histoire du sas, et on rentre dans un endroit. Donc vous voyez, on perd tout ce rapport-là de ce qui fait la fédération de la ville, ou entre lieux où on habite ou on travaille, c'est-à-dire l'espace public. L'espace public se résume à chaque fois sur des choses très très courtes. Donc l'espace de rencontre, il n'y est plus là-dessus. On y construit par contre des œuvres architecturales. Nous, les architectes, on est contents parce qu'on laisse une jolie œuvre de ce qu'on a fait. C'est-à-dire que parfois, pour l'éternité, on est entre les deux. Vous voyez, j'attaque même là-dessus. C'est vrai qu'on était formés comme ça pour dire il faut que... Et la question qu'on pose, c'est et les temps d'interface et d'épanouissement dans tout cela. Comment ça se passe? C'est-à-dire que la pause, par exemple, comme ici sur ces travailleurs, vous me dites, bon, la photo ne date pas d'aujourd'hui, mais quand même, comment ça se passe ça? Comment ces temps-là sont travaillés sont... Parce que le temps de présence sur un lieu de travail ou à proximité peut être évalué entre 9 et 10 heures par jour. Entre le moment où vous mangez, que vous arrivez, vous posez votre voiture en disant, tiens, je vais aller récupérer autre chose. Donc, vous avez quand même 10 heures par jour à côté ou à proximité du lieu de travail. Donc, comme vous en avez 12 ou déjà, vous commencez, vous vous préparez, vous dormez, etc., il vous reste 2 heures ou entre le temps de loisir, voilà. Donc, c'est 10 heures par jour, et surtout, vous êtes éveillé, enfin, j'espère, sur votre lieu de travail, autrement, ça ne va pas être productif. 10 heures par jour, vous êtes éveillé, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? C'est-à-dire l'épanouissement autour de ça, parce que chez soi, on a quand même 8 heures où on dort, on a 4 heures chez soi. Donc, c'est notre vie, on passe sur le lieu de travail, il faut savoir, et avec nos collègues de travail, entre autres. Quoi. Alors, quels sont les abords du lieu de travail? Alors, celle-ci, c'est très simple. On voit, c'est l'entreprise de Jean-Marc Neveu qui, lui, est très sensible à ça. Il se dit, je suis conscient qu'à un moment ou un autre, mon outil de travail, finalement, la végétation est près des voitures, c'est-à-dire c'est les voitures qui profitent de la végétation, et que l'enrobé profite... Alors, vous allez dire, oui, mais il y a des contraintes techniques, il ne faut pas radicaliser. Oui, mais par exemple, celui qui fait sa pause, qui sort avec sa cigarette ou même sans sa cigarette, d'accord, où est-ce qu'il se met là-dessus? Vous voyez la configuration là-dessus. Et Jean-Marc Neveu le dit très bien là-dessus, en disant, aujourd'hui, moi, comment je fais pour que mes salariés aient un vrai plaisir de venir au travail? Et quelle valorisation culturelle du travail? Donc ça, c'est un artiste. Hein. C'est pour certains qui le reconnaissent, c'est Igor, qui travaille beaucoup, justement. Aujourd'hui, au niveau culturel, on est en train de... Nicolas Bonneau le fait aussi. Hein. En ce moment, il sort un spectacle là-dessus sur fondu de fonderie à Rochefort, qui est de dire comment est-ce qu'on a une valorisation du travail. Et ça, c'est l'élément. C'est-à-dire que même les espaces aux abords de nos entreprises, je dis nos entreprises, vous voyez, je me mets là-dedans, doivent pouvoir valoriser notre travail à l'intérieur. Si on est épanoui, on sent qu'à un moment ou à un autre, notre travail est valorisé. Si on arrive en se disant, on fait 8 heures, on pointe, on repart, on a fini, et qu'on se dépêche de rentrer dans sa voiture pour rentrer chez soi, ça ne fonctionne pas. Je vous rappelle, c'est 10 heures passées sur son lieu de travail. Comment passe-t-on du temps de travail au temps de repos? Une transition douce. Vous voyez ces images, elles sont prises ici, c'est-à-dire quelqu'un qui veut aller manger, qui sort de l'activité. Vous voyez le périple qu'il a à faire, ne serait-ce qu'à pied. C'est-à-dire qu'il y a des employés ici qui prennent la voiture pour passer de l'autre côté de la voie pour aller manger. On a 100 mètres. Quoi. Vous voyez, on est dans là-dessus. Alors on se dit peut-être qu'on peut partir sur de nouveaux procédés au niveau des zones d'activité. Si ce n'est, il y a ces zones d'activité aujourd'hui qui existent, qui sont encore là pour 20 ou 30 ans. Qu'est-ce qu'on en fait autour de ça? C'est-à-dire que peut-être qu'on peut inventer de nouvelles formes, mais celles-ci, il faut inventer des choses pour pouvoir les résoudre. Alors, les utopistes, tout qu'on est architecte urbaniste, on dit, ben voilà, ce qui est intéressant, c'est une ville qui, à un moment ou à un autre, le temps de transport soit verdoyant, et voilà. Attention, c'est l'histoire de ce sas dont on parle. C'est-à-dire que l'accueil de la zone d'activité, c'est intéressant, mais c'est aussi tout le travail entre notre lieu de travail et notre lieu d'habitation. Aujourd'hui, il y a des gens qui se détournent en voiture pour passer le long de vallées, de rivières, pour regarder le brouillard qui se lève avant d'aller travailler. Ce n'est pas des blagues ce que je vous raconte, hein. Il y a des gens qui font ça. Donc ça, c'est hyper important de se dire que quand on va rentrer, même arriver dans la zone d'activité, si tout le trajet n'est pas travaillé, on est déjà dans une frustration de celui qui l'utilise. Quoi. D'abord, quand on est dans sa voiture, on ne rencontre pas l'autre. J'insiste beaucoup là-dessus. Et que dans un épanouissement, s'il n'y a pas ces zones de frottement, on reste... Je suis pour le télétravail, hein, je le pratique. Mais attention à bon escient, c'est-à-dire si on ne va pas... C'est pour ça qu'on a créé le collectif aussi, c'est pour un moment ou un autre... S'inviter à aller plus loin et d'aller rencontrer l'autre et d'échanger sur l'espace public autour. Donc, la question qui est posée, comment on réinvente la zone d'activité? Là, c'est le CAUE 44 qui s'est posé la question. Cette image me paraît intéressante parce que même par rapport au lieu de travail, le rapport avec l'espace extérieur paraît fondamental. C'est-à-dire que d'où vous travaillez, même si vous êtes ici, on est dans un atelier de fabrication, d'avoir ce rapport avec l'extérieur, et ce n'est pas uniquement une boîte sur laquelle l'intérieur... On n'est pas des lapins, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, on n'est pas sur de l'élevage hors sol. Non, mais sincèrement, je le dis avec ça comme ça, mais pourquoi les activités sont presque de l'élevage hors sol aujourd'hui, quoi? Mais non, il y a des gens qui, à l'intérieur, vous allez dire, mais traditionnellement aussi, dans les usines, ben ouais, justement, mais on l'a dit, c'était peut-être d'éviter aussi ce type de choses-là, même si on est un ouvrier, on peut très bien avoir un vrai plaisir d'avoir un rapport avec l'extérieur qui soit agréable. Enfin, bon, voilà. Alors aujourd'hui, on invente des choses, comme ici, qui sont ces espaces intermédiaires. Alors pourquoi pas? Je trouve ça très intéressant, parce que si je mets l'image qui suit, ça, c'est le fameux Lister de Guise. D'accord? On est sur la même, pratiquement... La même conception. Attention de ne pas, c'est-à-dire pour compenser un phénomène, de ne pas réitérer ça à l'intérieur des entreprises. C'est-à-dire, ah oui, on va faire des espaces, on va se re-rencontrer, etc. Mais la friction, elle va rester entre nous encore. C'est-à-dire, c'est d'aller... Alors, évidemment, l'espace est agréable. Hein, je ne sais pas comment on peut revenir en arrière. Si, non, je ne peux pas revenir en arrière. Si. L'espace est agréable, évidemment, on peut échanger, etc., etc., etc. Attention dans le cadre, parce que les gens qui vont se retrouver vont continuer à parler de travail autour de ça, quoi. Voilà. C'est vraiment cette dimension-là. Voilà, c'était juste ce petit détail. Non, je suis revenu en arrière. C'est bon. Donc, familistère de Guise. Et puis, une dernière question. Pourquoi faire de la zone d'activité un véritable quartier? Ça, c'est les questions qui se posent aujourd'hui. Est-ce que la zone d'activité doit devenir un quartier? Et un quartier, c'est quoi par rapport à la ville? Est-ce qu'à chaque fois, c'est une micro-ville qu'on refait là-dessus? Moi, je pose la question derrière, là-dessus. C'est que sont les cœurs de bourg autour de ça, autour de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, effectivement, alors on ne va pas y revenir, on a mis les commerces à l'extérieur pour les raisons de rentabilité, etc. etc. Aujourd'hui, on a des cœurs de bourg qui se désertifient, pardon. Recréer un quartier dans les zones d'activité, c'est au risque de reconforter la ville en dehors de ces cœurs de bourg. Donc c'est de trouver cette justesse-là, cet équilibre-là pour dire oui, effectivement, on travaille, mais oui, on va quelque part ailleurs dans la ville pour pouvoir faire autre chose. Et c'est ça dont on a besoin, ces éléments de voilà. Et c'est ce que j'ai mis, quel équilibre avec l'ensemble de la ville. Voilà, c'était juste pour vous faire réagir et titiller un peu. On m'a demandé de jouer ce rôle-là.
Oui, oui. Tu l'as fort bien joué, c'est bien, Franck. La commande est réussie. Alors, des remarques, des réactions, des questions? Non, il vous a...
Je voulais juste intervenir par rapport aux zones d'activité. C'est vrai que vous avez tout à fait raison dans votre analyse. La zone d'activité au départ, à quelques exceptions près, je pense au parc industriel, le parc de la Plaine de Lain, le parc d'activité de la Plaine de Lain, a été pensé effectivement de manière cohérente, globale, par rapport à un environnement, etc. Mais à cette exception-là, ou à quelques exceptions, effectivement, la zone d'activité n'a jamais été pensée comme un quartier, ou jamais été pensée comme une extension de la ville, ou n'a jamais été pensée comme un lieu de vie. Donc c'est vrai qu'on se retrouve parfois avec des zones d'activité qui sont tentaculaires, sans réel plan d'urbanisme, sans réel véritablement lieu de vie. Donc il y a le Rovaltin, le parc du Rovaltin, qui a été pensé aussi de manière intéressante d'un point de vue urbanistique. Il y a le parc industriel de la Plaine de Lain, et puis il n'y en a pas beaucoup, quoi, effectivement.
Je peux réagir là-dessus. Vous voyez déjà dans les éléments, même si c'est des images, mais le nom qu'on donne là-dessus, c'est-à-dire on dit que c'est un parc. Donc dans la notion du parc, on commence déjà encore à délimiter une zone, même si c'est intéressant dans la conception. Mais dans la terminologie, on dit que c'est un parc de quelque chose. Et dans le parc, c'est un endroit où on a des limites très fermées, très simples. Donc on est toujours dans... On a du mal à sortir, à se dire qu'il y a un vrai mélange autour de ça. Même si on sent bien les conflits qu'il peut y avoir entre l'habitat et puis l'usage. On sent bien qu'il y a des activités qu'il ne faut pas mettre à côté de l'habitat, etc. Mais les choses peuvent se penser. Voilà. Voilà, excusez-moi de réagir sur la notion aussi de parc là-dessus.
Pourquoi les collectivités, qui sont souvent maintenant en charge de toutes ces questions économiques, et je pense à la communauté d'agglos du pays Châtel-Ordet, puisque c'est là où se situe notre activité, pourquoi elles ne se préoccupent pas plus de ces questions-là, d'aménagement dans les zones, de cohérence entre le centre-ville et ces zones, alors que c'est pour le bien-être de tous, que ça permet de développer les déplacements doux. Des exemples, quand on est en zone nord, quand on va voir des entreprises, il n'y a pas un lieu pour manger en bord de Vienne qui est sympa avec son pique-nique, et ça bouchonne le midi, alors ça bouchonne à l'échelle de Châtellerault, hein. Ça bouchonne le midi parce que les gens, en effet, prennent leur voiture pour faire 200 mètres. Donc pourquoi les collectivités ne se préoccupent-elles pas de ça? Est-ce que vous avez, entre guillemets, une explication?
Je vais donner ma réponse. Les élus sont élus pour 6 ans et donc ils ont une échéance électorale à chaque fois. Donc eux, les élus, hein, tous, même si on est ici dans la salle, hein, je travaille qu'avec des élus. Donc, et je comprends ces discussions qu'on a régulières avec eux, mais ce n'est pas perversif parce qu'ils disent, ben, nous, il faut qu'on ait un compte de résultat à la fin des 6 ans. C'est-à-dire qu'on a fait telle chose, et des chiffres en face. C'est-à-dire que la zone d'activité, c'est de l'emploi, c'est du chiffre, c'est du montant qu'on arrive à analyser. Ce qu'on parle par rapport à ce qu'on dit indirectement, on parle de l'émotionnel. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas trouvé le moyen d'avoir une règle qui nous calcule ce que ça veut dire, l'émotionnel, ce que ça représente tant d'argent de l'autre côté. C'est-à-dire, le jour où on va trouver ça, elle va montrer que l'émotionnel représente tant de chiffres là-dessus, vous allez voir que ça va changer. Mais aujourd'hui, on ne sait pas faire. C'est-à-dire que même si on travaille, par exemple, sur des notions d'entre-lieu, ou même si on dit, par exemple, dans le cœur de bourg, on va mettre un petit commerce qu'on implante comme ça, qui n'est pas du chiffre, qui va ramener quelque chose. Ça, on ne peut pas le chiffrer. Mais pourtant, en réalité, c'est quelque chose. Et ça, ce n'est pas palpable. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est palpable. C'est palpable, justement, si au contraire, c'est palpable. Mais ce n'est pas quantifiable, maître. Et c'est pour ça que tant que ça sera comme ça, les élus, je dis les pauvres, ils iront pas plus, ils pourront pas aller au-delà là-dessus. Parce que vis-à-vis de ceux qui sont en face d'eux, les autres demandent du résultat. Tout le monde demande du résultat. Combien d'emplois, l'accord du chômage, etc., etc., etc. Et je ne prends pas sur les politiques aujourd'hui, je m'en tape. Enfin, je m'en tape, non. Mais ce que je veux dire, c'est que tant qu'on sera comme ça à raisonner sur des notions de croissance, etc., il est évident, moi je préférerais qu'on dise l'emploi c'est intéressant pour l'épanouissement d'un tel, c'est-à-dire quand il a un travail, il s'insère, il est là dans un lieu, etc. etc. On n'utilise jamais cet argumentaire-là. Jamais, jamais, jamais. C'est-à-dire qu'on dit on a l'emploi, donc on va avoir un pouvoir d'achat qu'on va développer derrière. Alors je ne sais pas comment il faut faire, hein. Je ne sais pas, je n'ai pas la solution. Mais tant qu'on aura ces critères de jugement, il faut inventer d'autres critères de jugement et se mettre d'accord ensemble, c'est-à-dire se dire, même entre les industriels, c'est-à-dire bah, réfléchissons à ça. Des gens comme Jean-Marc, je dis Jean-Marc, il n'est pas là, on l'est, comme des gens comme lui qui disent, bah, voilà, posons-nous la question, savoir qu'est-ce qu'on fait autour de ça. Et là, Florent travaille dans son entreprise. Qu'est-ce qu'il vous a dit comme activité? Il était culturel, animateur culturel dans une entreprise. Vous voyez, donc déjà, c'est des gens qui ont cette approche-là. Et là, ce n'est pas un productif, c'est-à-dire que les éléments de plastique, ce n'est pas lui qui les produit. Pourtant, il amène quelque chose. Il amène quelque chose, on le voit avec ses employés quand on les a rencontrés. Quoi. Ça change complètement.
Bien, d'autres questions? D'autres animateurs culturels, alors.
Alors, du coup, pour rebondir un peu directement, est-ce que de la même façon qu'on régente pas un certain nombre de constructions, d'aménagements, on ne pourrait pas obliger les acteurs économiques ou les gestionnaires de zones d'activité à une certaine qualité urbanistique? Parce que de la même façon qu'on a dénoncé dans un reportage il y a quelque temps le monde selon Monsanto, on pourrait tout à fait refaire un reportage aujourd'hui en France avec la France selon Auchan.
Oui, mais tu, en posant la question, tu as donné la réponse, quoi. Oui, bah, il faut se mettre autour de la table et puis réinventer les villes là-dessus, quoi. Mais c'est de le faire ensemble, c'est-à-dire que... Excusez-moi, je termine là-dessus, mais... Ce qui est important, c'est de se dire, pour l'instant, on a confié ça à des gens comme nous, des urbanistes, et puis il y avait des décisions, mais il faut remettre la maîtrise d'usage dans la question, c'est-à-dire qu'il faut remettre l'habitant et faut remettre l'usager aussi là-dessus. Même s'il n'y en a que 10 sur 200 qui prennent part à la discussion, vous verrez que ça changera complètement. On va reconnaître son lieu de travail, et puis à partir de là, on donnera, on dit, voilà, bah, moi, je ne vais pas là pour telle ou telle raison, et on invente les villes là-dessus. Comme on est expert, nous, on est bien expert, c'est marqué là, ici, on pourra toujours dire si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, mais au moins, dans le premier débat, c'est d'en discuter avec les uns les autres. Et sans forcément prendre du temps, on peut expérimenter aussi des choses, là-dessus. On n'est pas obligé d'attendre 6 ans pour faire une zone qui fonctionne.
Merci, oui. Philippe Baudry, je suis président d'un collectif local, territorial, puisqu'il s'agit du collectif territoire Mirebalais, c'est-à-dire regroupant les communes de l'intercommunalité du Mirebalais. Je vais être un petit peu confus, mais je vais essayer d'être transversal. Depuis que je suis là, j'ai entendu beaucoup de choses concernant les zones d'activité, concernant les villes, concernant les zones rurales, les zones urbaines ou périurbaines, concernant l'attractivité ou la promotion de ces zones. En revanche, concernant également les tiers-lieux qui sont des espèces lilliputiennes au niveau de la surface d'une zone d'activité, qu'elle soit en ville ou à proximité ou en périphérie des villes, qu'elle se situe en zone rurale. Vous parliez de pensée tout à l'heure, mais j'ai envie de dire qui pense et pourquoi je pense, ou pourquoi penser. Quand vous parlez d'Auchan, Auchan pense. Et il pense de façon rigoureuse, il pense de façon avoir déclenché de l'attractivité et déclenché cette attractivité pour démultiplier un chiffre d'affaires et des bénéfices. Quand on parle d'attractivité, alors quand on parle de zone d'activité, il y a effectivement ces zones urbaines, mais pour l'essentiel, on est en zone rurale avec une désertification, vous en parliez, de ces zones avec des problèmes de bourg, de centre-bourg. Pour autant, on voit apparaître un peu partout des zones d'activité. La Vienne s'est fait concurrence sur son propre territoire en développant des viennopoles, pour la plupart inoccupés, désertiques. Et ce n'est pas parce qu'on y mettrait une pépinière d'entreprise ou parce qu'on y mettrait un tiers-lieu qui peut être utile qu'on réglera le problème de la zone d'activité. Quand je disais qui pense et pourquoi je pense, en fait, je pensais à une chose. On parle de l'attractivité des zones d'activité, mais à aucun moment on a parlé de la gouvernance et on a parlé de l'attractivité des communes ou des institutions qui créent ces zones d'activité. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va s'installer dans telle ou telle zone d'activité? Monsieur disait tout à l'heure, sans culture, on n'aura pas de jeunes. Effectivement. Sans culture, une commune n'aura pas, ne conservera pas une jeunesse qui souhaite pouvoir bénéficier de spectacles, d'animations, etc. Mais une entreprise ne viendra pas plus s'installer dans ces communes-là. Donc, ce qui est dit, pour rebondir sur ce que vous avez présenté, qui est une excellente idée, dans le projet qu'on a présenté au titre du collectif, on propose de mettre sur le Viennopôle du Mirebalais une conciergerie. Donc on est bien en phase dans les besoins que peuvent avoir à la fois les entreprises et les salariés de ces entreprises. Voilà, je suis désolé, j'étais un petit peu long, mais j'essayais d'être transversal au travers de tout ce que vous avez les uns et les autres dit.
Une demande de parole aussi.
C'est pas trop une question, c'est plus une réaction. C'est vrai qu'on a un modèle d'organisation parce que vous parliez de la responsabilité des élus. Malheureusement, c'est beaucoup plus grave que ça. S'il y avait que les élus qui étaient responsables, je pense qu'on ça serait assez facile de s'en sortir. Là, toute notre organisation, elle est organisée en tuyaux d'orgue. C'est-à-dire que ceux qui sont responsables de l'économie, que ce soit dans la collectivité, dans la région, dans l'État, partout, ils se correspondent entre eux, mais il y a des cloisons absolument, enfin, on ne peut pas dire étanches, mais disons bien encadrées. Hein, chaque secteur est comme ça. Ce qui fait que le bilan de l'opération, dès qu'on a un projet qui est à cheval sur deux, trois choses, ben, je vois le travail qu'on a fait au Conseil de développement de Poitiers. À chaque fois qu'on essayait de relier des choses, ça ne marchait pas parce qu'il y avait toujours un élu qui avait l'impression qu'on empiétait sur son territoire, l'autre qu'on ne le prenait pas en compte. Enfin, et je pense que cette organisation qui nous vient des années d'après la dernière guerre, même certainement un peu d'avant, mais surtout qui s'est développée après la guerre, elle est obsolète maintenant. Le problème, c'est que je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que c'est toute l'organisation de notre système, et pas que économique, hein, économique et social, qu'il faut essayer de repenser, de revisiter. Parce qu'autrement, il y a des outils, hein, et des outils qui sont absolument simples. C'est vrai qu'on se plaint toujours que dans les quartiers, il n'y a pas de boulot. Vous mettez des régies de quartier dans lesquelles vous mettez des élus, des logeurs, enfin des bailleurs sociaux. Vous mettez les quelques entreprises qu'il y a sur le quartier et les habitants, vous pouvez arriver à faire penser les gens différemment. Et il y en a une sur Poitiers, ça fait 80 salariés sur un tout petit territoire qui n'est même pas dans la politique de la ville, enfin, il n'y est plus. Donc on aurait les outils. Le problème, c'est que ces outils-là, on n'arrive pas à les faire fonctionner parce que moi, je pense qu'on est dans une société qui est beaucoup trop cloisonnée. Et tant qu'on n'arrivera pas à casser ça, on ne s'en sortira pas. Et beaucoup de gens, pas que les élus, sont très attachés à ce cloisonnement parce que c'est comme ça on les repère, ils sont identifiés. Si vous êtes de tel bureau, tel machin, là c'est bon, vous êtes quelqu'un. Et le problème, c'est que c'est ça qui marche pas.
Si, pour ce qu'on disait un peu, je réagis, ce qu'on disait en préambule, c'est qu'on a un fonctionnement en silo aujourd'hui, Et quand on parlait de trans quelque chose, c'est par là qu'il va falloir passer. C'est-à-dire qu'il faut remettre un peu on est en vertical, maintenant il faut remettre des choses aussi en horizontal là-dessus. Quoi. Voilà, c'est... Après, les outils, on les a effectivement. Maintenant, c'est... là, on ne parle que de l'humain. Quoi. On ne parle que de l'humain. On ne parle plus d'outils réglementaires, etc. Quoi.
Merci. Donc, je vais vous demander de...
Non, mais comme je passe après, donc j'ai quelque chose à monter, justement, des outils, faire du lien entre la société civile et le monde de l'économie. Et il existe des solutions quand même, donc je vais essayer de les démontrer peut-être tout à l'heure, dès que je passerai en intervention. Merci.
Donc, merci à vous. Et donc, on va faire une petite pause photographique. Julien, à vous. Et puis, Monsieur Châtenay, ben, venez aussi, puisque vous enchaînerez ensuite pour terminer. Donc bonjour. Julien Michaud est photographe, mais je lui laisse le soin de se présenter. Et... Allez-y.
Bonjour à toutes, à tous. Je suis photographe. Je suis en période de création d'une activité professionnelle autour de cette pratique, autour de deux axes. Donc il y a plus une partie qui est autour d'une commande, c'est de la photographie documentaire, donc de commandes d'entreprises, d'associations qui ont besoin de garder une trace de leurs projets, de leurs activités. J'ai notamment travaillé, puisqu'on l'a cité plusieurs fois, dans l'entreprise de Jean-Marc Neveu, CDA, qui met son entreprise dans une démarche d'ouverture. C'est parce que je suis venu présenter aujourd'hui, ce sera pour une prochaine, les journées d'automne, qu'on lit au mois d'octobre, ici même. Et une partie, du coup, plus personnelle, plus artistique, toujours autour de la pratique de la photo documentaire, sur le paysage. Autour de Poitiers, moi j'habite Poitiers depuis 15 ans, j'ai grandi pas très loin, plus à la campagne. Et cette pratique de la photographie, du paysage, est très liée à la façon dont je me déplace, qui est plutôt à pied ou en vélo. Et c'est vrai que du coup, on voit tout un tas de zones, en effet. Donc là, on a parlé beaucoup des zones d'activité. Il y a aussi sur les zones commerciales, industrielles, artisanales. Il y a aussi les zones d'habitation, les zones agricoles. Et du coup, le fait de se déplacer dans ces territoires à pied permet d'appréhender le paysage d'une façon différente. Et parfois un petit peu surprenante, avec cette impression d'être dans des lieux où on croise personne, du coup. Donc on voit les voitures, les voies de communication, le transport de l'énergie, les zones résidentielles, les habitations, tout est plutôt assez cloisonné. Et se déplacer à pied là-dedans donne quasiment l'impression d'être dans un lieu un petit peu inconnu, avec une sensation un peu de découvrir un territoire qui est pourtant que tout le monde voit de quoi on parle, mais le fait de l'appréhender d'une autre façon change notre regard là-dessus. Voilà, en gros, pour essayer de vous présenter ma démarche, qui est toujours en construction. Donc je suis ni, j'ai pas de formation de photographe, j'ai pas de formation de sociologue ou d'urbaniste ou d'architecte. Moi avant j'ai travaillé comme peintre en bâtiment et comme animateur socioculturel. Du coup là c'est une troisième aventure professionnelle. Et j'ai réalisé une série de photos du mois de janvier au mois de juin 2016. Donc pour ceux qui connaissent Poitiers, en gros, entre Auchan Sud, donc la sortie de la ville qui est en direction de Bordeaux-Angoulême, la partie de Poitiers Est, là où il y a une zone commerciale aussi qui s'appelle la zone du Grand Large, qui mixe un peu zone commerciale, zone autour de la santé, et puis une zone résidentielle qui est en train de s'étendre. Poitiers Nord, donc plus autour de Chasseneuil, où il y a pareil une partie plutôt commerciale et de service. Et puis Poitiers Nord, la direction Nantes, Loudun, etc., où il y a la zone industrielle de la République. Donc voilà, avec un paysage. Voilà. Donc je vais vous. Et puis aussi, moi, j'habite à Poitiers dans ce qu'on appelait avant une ZUP. Donc c'est vrai que même pour les habitations, en fait, on utilise ce terme de zone. Donc voilà, ce que je vais vous présenter vous ira au milieu de ces différentes zones industrielles, commerciales, artisanales. Il y a aussi voilà, une zone d'habitation qui est mon point de départ. C'est de là d'où je pars pour faire mes parcours photo. Du coup, je vais juste vous montrer. Donc, en fait, en gros, j'ai appelé ça, c'est un photozine. Donc un fanzine, c'est une espèce de petit bouquin auto-édité. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de. C'est fait du début à la fin par mes soins. Et je vais vous le présenter en version numérique. J'essaierai de ponctuer ça peut-être de temps en temps de quelques remarques. N'hésitez pas à intervenir pendant. Mais vu qu'on a pas mal parlé, je vais plutôt laisser défiler les images. Et. Voilà, merci de votre attention.
Est-ce que c'est possible d'avoir un peu plus de lumière sur le vidéoprojecteur ou pas ? Ok. Ça marche. Donc voilà, donc
Donc c'est vrai qu'on a parlé là des zones artisanales industrielles. En fait, tout autour de ces zones, il y a aussi surtout des champs. Donc, qu'on peut appeler une zone rurale, moi ça me fait surtout penser à une grande zone d'industrie chimie. C'est vrai que j'ai pas l'impression d'être à la campagne quand je vois ces grandes, même s'il y a du vert. Parce qu'on se retrouve dans, voilà, ça me fait beaucoup penser aux zones, également aux zones industrielles. Voilà. Là, par exemple, c'est vrai qu'on est, c'est la RN 147, c'est donc une espèce de grande rocade qui ne fait pas tout le tour de Poitiers, mais qui permet de ne pas rentrer dans Poitiers pour aller de Paris jusqu'à Limoges. On peut rejoindre après pour aller à Bordeaux. Et c'est vrai que marcher à pied, à la limite de ces trucs-là, donne cette espèce d'impression bizarre. C'est des endroits qu'on. Alors, si on habite Poitiers ou si on y passe, on connaît forcément, on voit forcément de quoi on parle. On a rarement l'occasion de le voir un petit peu de l'autre côté. Voilà, il y a des choses qui me surprennent un petit peu, ou des fois je me demande un petit peu qui c'est à penser. Donc voilà, on voit qu'il y a un moment dans l'aménagement, il y a eu un moment de penser une espèce de petite zone de pique-nique. Là, donc on est sur la zone du grand large. Donc ça protège de la pluie, du soleil. Enfin, on sent une attention. On se demande quand même qui c'est qui a pensé à ça, s'il y a de temps en temps du monde. Enfin voilà, il y a un petit côté des fois. Donc là, on est plus dans une zone d'habitation avec ces espèces d'aménagements publics en bord de route et pareil qui surprennent un petit peu quant à la. Comment ?
C'est l'automne.
Aussi. Évidemment, pour recroiser, pour passer de zone d'habitation aux zones de consommation, zones commerciales ou aux zones de travail, eh bien, il y a en effet une multitude de ronds-points, de routes, d'aménagements qui sont faits pour la voiture. On a très bien parlé dans l'intervention précédente. Et souvent, c'est vrai qu'il y a, alors là, il y a le nom, là, c'est, je crois que c'est le rond-point de 8 mai 45. À Buxerolles, le B n'est pas là. C'est vrai qu'il y a par contre avec tout un tas souvent de noms qui font référence à l'histoire, la géographie, enfin des choses qui moi aussi me surprennent. Enfin, je trouve qu'il y a une espèce de décalage. Ah ben alors j'apprécie. Du coup je vois Buxerolles. En effet, ça y est, je l'ai jamais vu. Merci. C'est parfait. J'apprends. Souvent, j'apprends des choses au fur et à mesure en montrant mes images. Là, voilà, c'est la salle des passages. Il y avait une photo aussi tout à l'heure là, d'un espèce de tunnel. C'est vrai que quand on circule à pied autour de ces zones, en fait, on s'aperçoit que quand même si l'espace est très délimité, À pied, on peut quand même, voilà, y a des choses qui sont prévues, je pense aussi d'un point de vue technique, pour à un moment, je ne sais pas, s'occuper de la voirie, etc. Souvent, il y a un panneau sans interdit pour les voitures, pour l'accès, mais à pied, on peut naviguer entre dans ces espaces où on croise du coup peu de personnes. Hein, ce n'est pas des lieux de randonnée qui font rêver. Mais cela dit, il y a une certaine forme de tranquillité et puis de surprise. Et en effet, donc on peut passer, quand on est en voiture sur la déviation, on n'imagine pas tout ce qu'il peut y avoir en fait sous nos pieds, tout autour. Il y a même une certaine forme de nature aussi qui s'y développe. C'est pas ce que je mets forcément beaucoup en avant, mais en tout cas, moi, j'ai aussi un intérêt à traverser ces endroits, puis à y observer, voilà, quelques petits détails qui échappent un petit peu à la fonction première de pourquoi a été créé cet endroit. Donc ça, c'est les zones, nouvelles zones résidentielles. Pareil, où c'est du coup, je trouve toujours un petit peu bizarre, c'est on n'est ni à la fois complètement chez soi, mais il n'y a pas non plus vraiment d'espace commun. Je n'ai pas trop l'intérêt de construire ces trucs-là. Je dis qu'on se retrouve avec un petit jardin privatif ou, comme je disais tout à l'heure en rigolant, où de toute façon on ne pourra pas sortir tout nu en mettant le son à fond sans embêter son voisin. Et en même temps, il va y avoir un grillage qui va nous empêcher de pouvoir facilement aller discuter. Et puis bien sûr, les voitures. Voilà. Bon, ça c'est une petite anecdote, j'aime bien, ça fait plaisir de temps en temps de tomber sur des choses comme ça. Et le SF de science-fiction, je trouvais, correspondait bien à ce truc-là, quoi. Voilà, un aménagement. Donc pareil, on est derrière, là, entre la militerie, les zones du grand large. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, le parking, les transports pour l'énergie et puis l'aspect résidentiel. Là, on est dans des trucs un peu plus éloignés de Poitiers, un peu plus classe. Donc là, on est dans l'habitation où voilà, on est dans un parc autour du Futuroscope, donc des choses un petit peu surprenantes aussi, voilà, qui restent. On se pense qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a voulu faire quelque chose, hein, ou plusieurs personnes. On a du mal à imaginer ce que ça a pu être. Si vous avez une info comme le baie de Buxerolles, n'hésitez pas. Ah, donc on est là autour de Montamisé, hein, donc les villes qui jouxtent Poitiers, qui sont en général d'ailleurs séparées par cette fameuse RN 147, et soit une zone commerciale ou industrielle. Donc là, on est voilà, sur ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, donc moi, c'est mon lieu d'habitation. Et du coup, qui à un moment voilà, a été aussi une zone urbanisée. Enfin, c'était ZUP, ça ne s'appelle plus comme ça. Mais en tout cas, voilà, il y a eu un moment, ça a existé à partir de cette réflexion. Donc là, en fait, si on fait un demi-tour à 180 degrés, on est sur la zone des ports de Lausanne, donc où il y a tout un tas de garages. Donc il y a un côté très... Quand on traverse en voiture, on est très en face des façades. Et c'est vrai que derrière, le paysage est assez surprenant. Donc on aperçoit loin, voilà, les autoroutes, etc. Là, il y a un terrain de cross qui s'est implanté là. Un petit peu sur la gauche, il y a une espèce de décharge sauvage. Le goudron s'arrête, il y a une espèce de zone un petit peu en friche. Et puis après, bon, ben le rural très industrialisé et chimique avec ses cultures. Tout autour. Je précise à un moment moi, que le livre n'a pas été fait, ce travail n'est pas exclusivement sur les zones d'activité, hein, c'est plus une approche du paysage. C'est vrai que du coup, là, le fait de se déplacer à pied permet aussi de découvrir tout un tas quand même de chemins qui permettent en effet de quelque chose de pas être à côté des, des voitures et autres. Donc, voilà, de circuler dans des quartiers de façon plutôt agréable à pied. Là, voilà, on regroupe les trois zones. Là, il y a la zone d'habitation. Juste derrière, en fait, ce qu'on ne voit pas, là, il y a la rocade. À gauche, là, il y a un petit bout de bâtiment. Donc là, c'est une petite zone, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais entre commercial, artisanal. Un terrain qui est un peu en friche avec un petit peu de décharge publique au pied. Un arbre qui, somme toute, est assez, assez joli. Du coup, une espèce d'endroit un petit peu comme ça, un petit peu de nulle part, qui semble un petit peu hors du temps, hors de l'aménagement. Donc là, des zones résidentielles, c'est, je crois, un des quartiers les plus récents de Poitiers. Il y en a d'autres qui sont en construction. Là, on est à Saint-Éloi. Voilà, avec, quand on a parlé tout à l'heure, hein, l'aménagement, les espaces verts, etc. L'impression aussi des fois d'un petit peu de quelque chose qui semble du décor en carton-pâte ou quelque chose comme ça. Il y a un côté un peu très surfait. C'est pareil, on se demande qui à un moment d'où ça vient en fait tout ça, quoi. Comment ça a été pensé, qui a créé tout ça et comment on en arrive là. Voilà, c'est j'imagine que dans quelques années, il y aura une rangée de maisons qui sera un petit peu plus dans le champ derrière. Ou alors là, peut-être que la maison sera détruite avant, je ne sais pas. Mais alors là, je trouve qu'on est très justement dans c'est là un nouveau quartier qui est en construction, le quartier des Monts-Gorges. Et qui du coup, moi, j'ai l'impression de circuler dans une maquette d'architecture. Tout est pour un peu, il y a le pot de fleurs, le café, on a l'impression que le café va être sur la table, voilà, hein, tout est très propre, très beau, je sais pas comment ça viendra, mais c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu surréaliste qui contraste évidemment avec cette petite maison abandonnée qui est somme toute là, voilà, on est dans quelque chose de très très organisé, c'est très fait, donc c'est pas habité encore. Alors qu'on a, enfin, ouais, c'est comment dire. Je suis assez surpris de. J'imagine mal arriver dans ce genre d'endroit. On a l'impression que c'est qu'il y a déjà quelqu'un qui habite. Enfin, je sais pas. Je trouve ça assez surprenant. Je suis un petit peu dans la façon dont je travaille. J'aime bien. Je répertorie. Il y a quelques aménagements que je retrouve et qui me font sourire. Donc ces fameuses grosses pierres calcaires. Bon, celle-ci a été déplacée sur le côté. Et c'est vrai qu'on retrouve souvent dans les zones, donc il y a la route qui continue, donc avec un asphalte, on dirait quasiment un circuit automobile. C'est vraiment très. Tout est très propre, très bien fait. Il y a ces pierres qui sont là, alors pareil, l'autoroute, les arbres, et puis c'est pareil, là, ces supports, là, ces tuteurs d'arbres là, que je retrouve partout. Et c'est vrai que, voilà. Les lampadaires aussi sont toujours là, les trottoirs, etc. Puis on se demande un peu ce qui va s'y passer. Ouais, encore ces cailloux, donc là on est au champ sud, l'autre c'était Poitiers Nord. Voilà, du coup ça c'est un peu différent. Voilà, encore toujours ces fameuses pierres, ça je crois que c'est le bâtiment, je crois plus qu'il soit en activité. Donc en effet, il y a cette question un peu qu'est-ce que ça va devenir. Ça fait des grands espaces qui, je pense, pourraient servir en effet comme lieu de vie, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'on sent qu'il y a un gros patrimoine qui est là et qui n'est pas forcément utilisé. Donc là, le chantier, là, un aperçu du chantier de la LGV. Donc là, c'est, voilà, ça, c'est par exemple, je trouve assez, comment dire, assez marquant. Voilà la petite arrière d'un truc essentiel. Juste à droite, là derrière, il y a la rocade. Hein. Donc c'est vrai que on est dans un environnement qui n'est pas forcément super accueillant. L'espèce de bassin d'orage, hein, quand même, pour éviter que les maisons inondent. Et puis ces espèces de petites arrières de maisons là, qui sont pas très. Qui donnent, je pense, hein, pour un grand nombre de personnes, pas très envie. Quoi. Bon, après, il y a certainement d'autres avantages, mais c'est vrai qu'on. ce que je vous parlais un peu tout à l'heure, à la fin de l'aménagement, donc la route goudronnée nickel, et puis ben, voilà, l'espèce d'accotement de talus tout en pagaille. Ouais. Je vais me dépêcher un petit peu pour la fin. Le jardin privatif. Là, c'est un tunnel qui on passe du coup sous ces fameuses voies de communication. Donc là, je ne sais plus si c'est l'autoroute. Et du coup, ben voilà, juste derrière, il y a la zone industrielle. Et de l'autre côté, bon, ben la même chose pour l'agriculture, disons. C'est des bâtiments aussi, j'ai observé, qui vieillissent quand même assez mal. Donc on reconstruit des choses là, nouvel an avec le bois, un peu de la couleur. Et c'est vrai que les anciens bâtiments. C'est souvent des endroits où il y a de la place pour se garer, en tout cas. Pour info, il se trouve que c'est des bâtiments qu'on était, on a parlé à midi, là, qui sont réaménagés, qui servent de logement, mais a priori qui ont été construits pour une toute autre fonction, et qui du coup n'ont jamais servi pour ce pourquoi ils ont été construits. Voilà. Un petit peu de poésie pour finir.
Merci.
Merci de votre attention.
Merci bien. Voilà. C'est une incitation à regarder les territoires autrement. Voilà. Donc, c'est aussi le but de Créativité Territoire. Donc, on termine maintenant par Présenter. Donc, Alain Châtenay, si vous voulez bien présenter ce que vous pouvez offrir au territoire.
Bonjour à toutes et à tous. Mais déjà, merci pour m'avoir invité, donc je vais essayer d'être clair et concis. Bon, j'ai pas de belles photos, hein, je suis vraiment désolé.
Vous verrez ça avec Julien après.
Donc on s'est déjà mis en relation. Donc c'est quoi cette chose-là? Donc il faut savoir que, bon, je dirais j'ai une certaine histoire. J'ai travaillé pendant un certain nombre d'années dans quelques PME, Veolia, Danone et Eiffage, un équipementier automobile. Donc je sais tout ce qu'il faut faire ou pas faire vis-à-vis des territoires. Donc j'ai appris à globaliser, délocaliser, supprimer, fermer des usines, etc. en France. Et donc, j'ai arrêté de travailler il y a 15 ans pour me consacrer au monde associatif. Et donc, je suis administrateur, par exemple, d'associations autour de l'insertion, de l'handicap et des relations avec les PME et les territoires. Donc, il y a quelques temps, donc, on m'a demandé donc, de réfléchir, après avoir créé l'Observatoire des agents responsables en France, qui va déboucher sur une norme internationale, et un baromètre, comment on pourrait simplifier les relations entre, d'un côté, la société civile et, de l'autre côté, le monde de l'économie. Donc j'ai déposé une marque qui s'appelle Recenter. Recenter, ça veut dire quoi? C'est le réseau des entreprises et des territoires. Et ensuite, je vais vous présenter un petit peu ce qu'il en est derrière. Aujourd'hui, on est confronté devant un problème de relation entre, d'un côté, la société civile et donc le monde de l'économie. Toute personne, je dirais, pour marcher à deux pieds, elle a un bulletin de vote, un bulletin de paye. Et donc, il y a un grand déséquilibre aujourd'hui qui est, d'un côté, vous avez le monde politique, le monde associatif et le monde de l'économie via les entreprises. Donc l'idée, c'était comment faire du lien pour essayer d'améliorer les rencontres. Donc j'ai cette petite formule qui est en bas, donc c'est de se dire si on est responsable, éthique et transparent, la notion de la confiance apparaît, et quand il y a de la confiance, il y a de la croissance. Alors j'argumente ça, ayant fait une enquête avec au niveau maturité, au niveau des PME en France. Si une PME dit j'ai une action, une initiative, le fait qu'elle en parle, elle augmente son réseau d'influence, et ça augmente son activité de 15%, et ça divise par deux l'absentéisme. Donc j'ai des exemples, si vous le souhaitez, sur tout ce qui est des conciergeries et pour des zones d'activité que j'ai étudiées. On pourra en parler au fur et à mesure. Bon, par rapport au sujet d'aujourd'hui, j'essaie de faire le lien entre créativité et attractivité,
par rapport au territoire. Donc, aujourd'hui, quand on se pose une question, si vous regardez bien, on va sur Google. Donc, on a un certain nombre de réponses. Alors, après, on dit on a confiance, pas confiance, hein, ça, c'est une chose. D'un autre côté, on regarde le monde qui évolue. Donc, il y a des gens qui se disent, tiens, je vais aller sur Facebook. Il y a des millions de personnes qui vont sur Facebook, qui échangent un certain nombre d'informations. L'autre côté, c'est un peu plus professionnel. On va dire, tiens, je vais aller sur LinkedIn, je vais aller sur Viadeo, un certain nombre de réseaux. On n'interdit à personne et pourtant tout le monde le fait. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à creuser, c'est-à-dire utilisons les outils numériques pour faciliter les relations tout en laissant une autonomie au niveau de l'attractivité, au niveau des territoires. Donc ce que je vais vous parler, donc, c'est un espace qui est neutre pour échanger, partager, se rencontrer et aussi pour mettre en relation les personnes physiques, les organisations, ce sont les personnes morales, les entreprises, ce sont des salariés. Il y aura aussi une plateforme qui sera en place pour pouvoir, ils vont poser des questions et trouver des réponses et se mettre en relation avec un expert ou alors avec du contenu. L'idée étant, c'est quand on se connecte avec quatre petites informations, donc je vous donnerai l'adresse du site, ça vous donne le département, ça vous donne le sexe, ça vous demande le sexe et ça vous demande quel thème vous intéresse et tout de suite, ça vous propose les choses qui sont les plus proches de vous. Après, si vous trouvez, vous êtes mis en relation et après, il y a la notion de la confiance, vous voulez échanger. Et après, si vous êtes en confiance, vous faites du business. Donc d'où l'idée de se dire, c'est que si on met en relation et qu'on arrive à tracer sur la petite carte comme ça, par région, par ville, ou par personne, comme une famille, c'est de montrer qu'il y a des zones d'influence qui sont naturelles. Et l'attractivité, c'est d'être en relation avec des gens. Hein, si vous êtes dans une maison, peut-être que votre voisin travaille, est peut-être, je dirais, lié à la famille, qui est votre patron de l'entreprise, et ça, vous ne le savez pas. Donc l'important, c'est de créer du lien. Pourquoi faire ? Pour créer de la valeur et aussi pour augmenter son influence. Quand on regarde bien aujourd'hui, il y a des normes qui sont assez loin de la réalité qui s'appelle l'ISO 26000, donc qui sont des normes, disons, de comportement, et qui fait que par derrière, tout le monde essaye de préserver des valeurs. Donc je me suis amusé à faire une étude avec des gens, c'est sur les thématiques, c'est-à-dire quand on va sur Google, je veux poser une question par rapport au développement durable, RSE, etc., on se rend compte qu'il y a 22 millions de pages publiées en France. Quand on regarde qui a publié ces pages, ce n'est pas du tout les réseaux qu'on pense. Donc il y a peut-être un étudiant qui a publié, puis il s'est amusé à cliquer 50 fois, il est en route. Donc aujourd'hui, vous voyez en bas, donc si vous voulez, donc il y a les quatre premiers thèmes qui sont les plus récurrents, que je mets à jour tous les 6 mois. Aujourd'hui, c'est l'environnement, la biodiversité. Il y a quelques mois, en fin d'année, c'était la RSE, avec la COP22. Donc ce qui veut dire que quand on est à la recherche de la relation et de l'information, on n'est pas forcément avec les bons réseaux au bon moment. Après, j'ai regardé aussi la notion d'écosystème, c'est-à-dire qu'en fait, on est tous une famille, c'est un écosystème, une entreprise, c'est un écosystème, une collectivité, c'est un écosystème, une région, c'est un écosystème, un pays aussi. Et on se rend compte que ça passe beaucoup par la communication. Donc d'où cette logique de deux piliers, qui est d'un côté, les thématiques doivent être en cohérence avec l'écosystème qu'on le connaît ou qu'on aimerait connaître. J'ai fait un zoom particulier aujourd'hui sur les achats, on va dire responsables, puisque j'ai bossé à créer l'observatoire pendant 7 ans, on se rend compte qu'il y a un déséquilibre. Plus on est en crise, plus on globalise, plus on fait de la productivité sur l'argent. Plus on fait de la productivité sur l'argent, plus on a un impact carbone négatif et plus on a un impact sociétal négatif. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir essayer de retrouver les équilibres. En France, il y a 2,860 millions d'entreprises. Il y a 2 millions d'entreprises, c'est entre 0 et 1 salarié. Donc il y a 217 entreprises qui sont des grandes entreprises, qui génèrent 90% du PIB aujourd'hui. Donc il y a des grands déséquilibres de relations. Bon, je vais prendre l'exemple de l'automobile, qui était un constructeur, qui a créé des équipementiers, qui a créé des sous-traitants, et les sous-traitants de sous-traitants, ils sont tous à l'extérieur de la France. Prenons l'agroalimentaire, c'est un peu la même chose. On voit l'écart entre le producteur et la distribution, qui fait la pluie et le beau temps, au détriment de la qualité des produits qui sortent. Donc on se rend compte qu'il y a un lien directement entre les process au niveau des acheteurs, qu'ils soient publics d'ailleurs ou qu'ils soient du privé, qui sont rentrés dans un processus, donc je dirais, de suivi des relations, et de l'autre côté, que la confiance n'est pas du tout au même niveau. Aujourd'hui, les gens qui contrôlent, ils cherchent à sécuriser leurs process et de plus en plus essayer à limiter le risque en mettant des clauses contractuelles. Alors que quand vous êtes dans un exemple, je vais prendre, j'ai dit à midi, vous êtes dans une grande surface, vous allez acheter un sac de 10 kg de pommes de terre. Si vous avez 8 sortes, laquelle vous allez choisir? Certains vous diront, moi je suis plus bio. Donc si vous avez 2 prix du bio, vous prendrez le moins cher du bio. Mais quand vous êtes face à un agriculteur qui, lui, vous donne un sac de 10 kg de pommes de terre, vous ne posez pas de questions sur le prix. Vous êtes en relation avec la personne directe. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que vous avez créé un lien social Et derrière, vous, après, quand vous regarderez le prix, vous verrez qu'il y a très peu de différence. Donc là, vous avez un tableau. Je pourrais laisser les documents, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui vous donne en fait l'équilibre comment il doit être au niveau de la relation. L'approche RSE, bon, c'est un mot magique. Hein, il y a quelques années, on parlait de développement durable, ce que je veux dire. Mais l'important, c'est de se dire, il y a un élément qui est neutre, c'est comme dans un cadre. Les gens, ils trouvent ce qu'ils veulent bien y trouver. Alors certains vous diront, on va fermer la lumière. D'autres vous diront, j'emploie des handicapés. D'autres vous diront, mon fournisseur me fait des photocopies recto verso, donc je consomme deux fois moins de papier. L'important, c'est de se retrouver à l'intérieur de ces mots-là. Donc quand je vous ai dit, hein, j'ai identifié 15 thèmes, je pense que tout le monde peut se retrouver plus ou moins soit sur un thème ou sur plusieurs thèmes. Je me pose des questions quand je suis dans une activité, dans un territoire, sachant que moi, mon objectif, c'est d'en prendre que 4. C'est l'ancrage territorial, les circuits courts, les relations parties prenantes et aussi tout ce qui est lié à la relation inter-entreprise pour développer au niveau des PME. Donc là, je souhaite mettre en place au niveau de quelque chose, c'est de pouvoir imaginer qu'à un moment donné, je me pose la question, circuit court, Limoges, ordinateur, que ça propose l'acteur qui est le plus proche, qui peut être une association ou qui peut être une entreprise. Donc l'objectif étant, c'est d'avoir de la donnée, bien sûr, pour cartographier et connecter les réseaux économiques entre eux. Et une fois qu'ils sont connectés, c'est de décloisonner, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment en silo. Hein, et ensuite, on a plus de chances par Google de trouver quelque chose à l'extérieur d'un pays ou même que d'une région. Et aussi, de vous permettre aussi de mesurer tous les enjeux et les impacts. Je vous montrerai ensuite comment ça part. Et tout ça, c'est basé sur la notion de la confiance. Pourquoi ? Parce qu'on est perdu. Il y a énormément d'informations. Et de ce fait-là, de l'autre côté, il faut essayer d'avancer, de co-construire sa solution. Je reviens un petit peu le parallèle sur les 15 thématiques entre organisations, donc qui ont des recherches, certains vont prioriser certains axes plus que d'autres, et le lien aussi qu'il y a avec les réseaux sociaux. Donc je sais que tout le monde ne peut pas être connecté, mais on se rend compte que dans les réseaux sociaux, ce qui est le plus important en termes de gens qui ont beaucoup d'activités liées au sociétal, qui sont les banques assurances, l'e-tourisme et du commerce, le premier truc qui sort, c'est l'attachement à la marque, qui est complètement déconnecté de l'autre côté de ce qui est publié, disponible sur Internet, c'est l'environnement et la biodiversité. Donc on est bien dans un système, je dirais, ambigu avec deux entrées, dans lequel il faut que les gens puissent se faire une idée de la chose pour pouvoir, disons, évoluer et se mettre en relation. Donc on a déterminé aussi que pour pouvoir affiner des recherches, parce que sinon on se retrouve avec un dictionnaire avec énormément de mots, donc là on les a recentrés sur une quinzaine de thématiques, c'est de se dire qu'on peut les lier avec une fonction dans l'entreprise. Un acheteur n'a pas le même comportement sur la biodiversité qu'un quelqu'un de la finance. C'est de se dire aussi que quand on est dans l'aéronautique, ce n'est pas la même chose que dans l'automobile. C'est de le décliner aussi par activité, par rapport à ses activités propres. Je vends des ordinateurs, je vends du service, je vends de la conciergerie, par exemple. Ou de se dire mon comportement vis-à-vis de mes clients et de mesurer entre les gens, voir comment c'est la confiance. Le système, il est basé comment ? Donc, d'un côté, il y a une marque qui est pour favoriser les circuits courts avec les réseaux et les entreprises au même niveau. Une plateforme, c'est une association que je suis le président, qui a vocation de créer des SIC dans chaque territoire qui aura le besoin. Et de l'autre côté, de mesurer par l'outil dans lequel on pourra poser des questions, s'évaluer et être noté. Je vais vous faire un petit peu un mixte que je dis en outils. Le portail, ça sera quoi ? Imaginez Mythique. Je déclare un profil, je trouve des amis. Imaginez Le Bon Coin, c'est bien le lien entre l'offre et la demande. Imaginez TripAdvisor, je note une relation. Donc c'est l'outil là qui est en ligne maintenant, donc permet de faire les trois choses en même temps d'une façon qui est neutre, disons, puisque vous êtes propriétaire du login, et qui est gratuite. Après, si vous voulez avoir votre propre écosystème, après c'est du paramétrage. Qu'est-ce que fait le système ? C'est le regard croisé entre ma vision à moi et celle des autres, et de pouvoir la positionner. Et là, vous avez un exemple de restitution sur les quatre axes, la gouvernance, l'environnement, le sociétal, les relations avec ses clients et ses fournisseurs. Donc la note est visible, chaque personne a accès à ses notes, mais les autres ne les voient pas. C'est-à-dire qu'ensuite, si la personne décide de les montrer, ce qui lui montre son attractivité, donc ensuite c'est elle qui décide, elle doit l'argumenter. Là c'est un exemple de PME, donc c'est une SAS qui représente 14 PME avec plus de 100 sites en France, donc sur le thème qui était intérim et achat responsable. Cette, cette organisation devait répondre à un appel d'offres qui s'appelle Lafarge. Donc Lafarge imposait d'envoyer à chaque entreprise un questionnaire de 100 questions et donc et derrière de payer aussi quelque chose, une qualification par un tiers externe, ça va coûter 400 euros. Donc la personne, je lui ai créé un login administrateur, elle m'a donné les 14 mails de ses interlocuteurs pour 800 euros et elle avait au bout d'une heure le résultat de la maturité RSE et elle a gagné le contrat. Donc comme quoi il faut pas hésiter à montrer que sous un angle différent, sous l'angle de RSE, qui est un truc qui est vraiment très subjectif, mais qui devient maintenant dans les critères, donc même au niveau des appels d'offres publics, donc des choses qui sont des critères qui sont vraiment importants. Et à droite, vous avez donc en 20 questions, j'appelle ça, c'est la roue de l'attractivité. Parce que si vous arrivez à vous positionner, vous, ensuite par rapport à tous ceux qui sont inscrits dans la base, ça vous aide à monter en maturité sur des axes que vous ne pensez pas forcément, qui peut être la gouvernance, qui peut être les déchets ou d'autres choses comme ça. Là, c'est un exemple qui est public. Donc, imaginez la ville de Mantes-la-Jolie. Ils avaient un problème de sécurité et de non-attractivité de toute la ville de Mantes-la-Jolie. Le maire a investi énormément d'argent pour refaire le centre-ville et personne ne vient habiter à Mantes-la-Jolie. Donc là, ce que je lui ai fait, donc, c'est par quartier, une cartographie donc, du nombre d'initiatives qu'il pourrait y avoir, des avis qu'ils pouvaient avoir les gens entre eux vis-à-vis d'une organisation ou une entreprise locale, et ensuite de regrouper par des collectifs qui peuvent être des citoyens, des associations, des entreprises, etc., etc. Et de montrer qu'à un moment donné, il y a des interactions entre les différentes entreprises. Donc l'exemple, il est concret. À un moment donné, deux quartiers voulaient montrer, disons, une association pour de la boxe. Donc le maire se trouvait confronté, je la mets où ? Et je paye à qui ? Donc de ce fait-là, par ce système-là, il a montré qu'il y avait une différence de maturité. Et en fait, il y en a un, donc le budget il est sur une seule association. Et ensuite, ils optimisent, je dirais, le nombre de membres, soit en mettant à disposition une des salles dans deux quartiers différents, ou entre les nombres d'adhérents. Ce qui veut dire que par derrière, ils ont eu moins à trouver, donc, je dirais, d'animateurs pour faire de la boxe. Deuxième chose qu'il y a eu derrière, à la vue de ça, c'est-à-dire, il dit comment je peux faire pour garder mes citoyens. Hein, parce que d'ici 2 ans, il y aura le terminus, on va dire, du RER à la ville de Mantes-la-Jolie. Donc il s'est dit, il vaut mieux que j'ai le maximum de gens qui restent. Comme ça, l'immobilier va monter et ensuite, j'aurai plus de chances d'avoir des infos derrière pour me financer. Donc, ce qu'il a mis en place, ce sont des plans pour, disons, citoyens. C'est-à-dire qu'il offre aux citoyens à peu près une prime de 50 000 euros pour qu'ils restent en ville, soit qu'ils rejoignent une association ou une entreprise, ou alors qu'ils créent sa propre activité sur place. Et donc, c'est un plan qui peut aider pour démarrer une activité. Donc, vous voyez à droite, donc il y a la cohérence des acteurs, la maturité RS et la responsabilité sociétale par rapport à les quartiers dans ce cas-là. Et en bas, c'est caractérisé en fait les enjeux territoriaux par initiative et par citoyen. Bon, le système est complet. Donc, d'un côté, il reboucle par rapport à l'économique, le sociétal et l'écologique, par rapport aux thématiques. Et à droite aussi, ce sont les objectifs de développement durable. Donc, dans certains endroits de région, il y a l'agenda 21. Et donc, et à terme, il y a un certain nombre de choses qu'il faudra respecter. Et donc, le système est cumulatif à 3 niveaux. Au départ, ce sont les engagements au niveau responsabilité sociale aujourd'hui et dans le futur, pour mesurer la maturité, éventuellement être accompagné en formation, identifier son écosystème, le caractériser, qui peut être un quartier, une ville ou une famille ou une entreprise, et ensuite de co-construire en fonction de ce que les gens ont mis ou compris du sujet, une solution avec des plans d'action derrière. Pour terminer, donc, au niveau de l'idée étant, c'est la relation, c'est la confiance, donc c'est un petit clin d'œil d'un côté sur la notion de la confiance. C'est comme une voiture. Donc, si je vous donne vous achetez une belle voiture, bon, à la limite, je vous dis ce qu'il y a à l'intérieur, le moteur, comment c'est, etc., le truc. Mais ensuite, il faut forcément, à un moment, mettre de l'essence. Et à droite, il est reconnu qu'au niveau, je dirais, national, une étude qui a été faite, quelle que soit l'activité, quel que soit le périmètre, dès l'instant qu'on regarde sous l'angle RSE, on augmente de 13% sa performance au niveau de l'entreprise engagée. Donc voilà, j'ai essayé d'être rapide. Donc, et en bas, bien sûr, vous êtes le bienvenu dans l'écosystème qui s'appelle Recenter. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Et ensuite, si vous voulez un Zoom particulier, ben, je suis à votre disposition pour essayer de porter. Je terminerai simplement. À l'heure d'aujourd'hui, l'association, je réponds énormément actuellement aux régions sur la notion de l'attractivité. Parce que l'attractivité aujourd'hui est beaucoup liée à l'image et l'activité. Et donc, chose que je ne pensais pas il y a quelques mois, donc, et avec les élections qui arrivent et au niveau des regroupements des régions, chaque maire aujourd'hui se pose des questions sur l'attractivité. Donc je réponds à des questions, j'étais à Caen pour la région Normandie qui fusionne. Là je vais répondre dans le Nord, c'est à Hénin-Bonbon par exemple sur au niveau des l'aménagement au niveau des quartiers. Et à d'autres endroits, c'est pour le tourisme. Donc, ce qui veut dire que par cet outil-là, ça permet de faire un certain nombre de choses. Voilà. Donc, je termine. Merci de votre attention.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes de précision sur l'un ou sur l'autre, photo ou Rezinter? Sinon, vous pourrez échanger de toute façon avec l'un ou l'autre en sortant. Moi, je voulais juste vous rappeler que donc, le vendredi 7 octobre, il y aura à 14h30 une conférence de Paul Ariès. Alors, tout le monde connaît peut-être Paul Ariès sous l'angle de la décroissance. Mais là, il viendra parler, je ne dis pas qu'il n'en parlera pas, mais il vient de sortir un livre qui est une véritable somme, qui s'appelle « L'histoire de l'alimentation de la préhistoire à nos jours ». Donc, il étudie de la forme des tables, de la table égyptienne à la table républicaine d'il y a quelque temps, et notre table aujourd'hui. Donc, c'est dans le cadre de la Foire Expo de Poitiers, qui a lieu du 7 au 9 octobre. Et donc, Créativité et Territoire a été sollicité pour animer une table ronde. Ça sera le cas le vendredi 7. Ensuite, il y a les journées d'automne, évidemment, les 19, 20 et 21. Et vous avez eu un tout petit aperçu avec l'intervention de Julien, mais il précisera le travail qu'il a fait avec l'entreprise. Mais il y aura d'autres exemples, et pas forcément que cette entreprise, de liens entre la culture et l'entreprise. Et enfin, le 25 novembre, vous avez la suite. Hein, donc, je ne vais pas vous embêter plus avec ça. Vous avez tout ça sur le document. Merci de votre attention. Et puis, de toute façon, si vous voulez encore échanger avec l'un ou l'autre, c'est tout à fait possible. La porte ne ferme pas dans la minute immédiate. Voilà. Merci en tous les cas.